En zone neutre, épisode 7. Merci d'être là, tout le monde. On est le 15 décembre 2020. On arrête la musique. Hein? C'est moi que vous voulez entendre. Dites-le. Hey, je suis toujours aussi saccadé dans mes débuts de show. C'est épouvantable. C'est ça qui arrive quand on contrôle tout. En zone neutre, je suis tellement content de vous voir ce soir. Ben, de vous voir. Je suis tellement content que vous me voyez. C'est tellement cool. Podcast que je fais toutes les semaines. La semaine passée, on n'était pas là. Concours de circonstances, bref, voilà. Je suis de retour. Ça me manque tellement quand je le fais pas une semaine. Faut que je le fasse. C'est rendu une drogue, ce podcast-là. Puis ce soir, je suis tellement content. Je suis tellement content des invités que j'ai sur le show. Vous savez que j'adore ça, faire des panels avec des amis humoristes. Donc, en début de show, c'est ça qu'on va faire. On va jaser, prendre des nouvelles du monde, des chums humoristes là, que ça fait un petit bout que j'ai pas vu. Vraiment content, on va leur parler. La semaine passée, vendredi, j'ai fait un show corpo en Ontario. J'étais vraiment content de retrouver finalement la scène. Puis c'était un show corpo, donc j'animais, mais j'ai eu tellement de fun, ça avait aucun sens. D'ailleurs, je remercie Mario Bourgeois du Pop 1844 Castleman en Ontario de me faire confiance sur des spectacles corporatifs comme ça, sur les spectacles d'humour aussi qu'on présente là à tous les mois. On va recommencer au mois de janvier. Je suis vraiment content qu'on puisse recommencer. On suit les mesures de distanciation, puis on arrive à donner un bon show en style cabaret un peu. Fait que vraiment content qu'on puisse continuer puis qu'on puisse reprendre un peu les shows. C'est ça. Je suis vraiment, vraiment content. J'ai vu sur les médias sociaux dernièrement là qu'il y a une espèce de vague de challenge de faire des push-ups, là, 25 push-ups par jour pendant 25 jours. Moi, dans la vie, j'aime ça être le numéro un. J'aime ça que mes amis aient le meilleur ami de tout le monde. Là, j'ai dit sur Facebook aujourd'hui, j'ai dit, c'est une des rares fois que vous pouvez me choisir le 26e. OK? Vous n'êtes pas obligé de me taguer pour que je fasse des push-ups à tous les jours. Je risque de ne pas les faire. Ou comme j'ai dit à un de mes chums aujourd'hui, probablement qu'à la deuxième journée du challenge, je vais avoir un billet du médecin. Donc, challengez-moi pas là-dessus. Ça ne m'intéresse pas en tout. On va présenter la bière de la semaine. comme je fais à toutes les semaines, j'ai ma petite bière. Habituellement, j'arrête au Brasse Camarade à Saint-André-Avelin ici. Ce soir, j'ai pris une bière que j'avais chez nous. Puis c'est une bière que j'aime. Fait que je me suis dit pourquoi pas venir la présenter. C'est une bière de la brasserie Archibald qui s'appelle Nuit Blanche. Donc c'est une IPA blanche. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, ça se vend un peu partout, ça se vend dans les dépanneurs. C'est pas une bière c'est pas nécessairement une bière de microbrasserie là, de la région ou tu sais, quoi que ce soit, mais c'est une bière que j'aime, c'est une bière forte à 6% d'alcool. Fait que c'est ça que je vais boire à soir. Mais je me suis préparé un backup parce que les bières IPA, j'avais goûté aussi pour la première fois une Bud Light à la limonade aux fraises. Donc, un petit drink d'été. Fait que je vais goûter à ça au courant du show tantôt. Probablement avec Louis Robitaille. Donc, je vais demander s'il a déjà goûté. C'est ça. Donc, le plan de match pour la soirée, je reçois un panel d'humoristes, de chum humoristes en début de show. Vous en connaissez certains, c'est sûr. Sinon, vous allez en découvrir d'autres. Je vais recevoir mes chums. Je dis que c'est mes chums. Bon, on se voit pas souvent, mais écoute, au moins, je pense qu'on a du respect l'un pour l'autre. On va dire ça de même. Et en deuxième partie du show, vers 8h10, 8h15, on va recevoir le DG et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Louis Robitaille. Donc, on va jaser avec lui. Petite surprise pour lui au courant de l'entrevue. Et puis, et voilà, ça va être cool, je pense, comme show. N'hésitez pas, tout au long du show, je veux vous voir. Dites-moi de où vous écoutez. Envoyez des questions, des commentaires, n'importe quoi. Le son, s'il y a des problèmes de son, d'image, whatever, je veux vous entendre. On est live présentement sur la page de En Zone Neutre Podcast. On est live sur ma page d'humoriste Simon Lavergne-humoriste. Et on est live sur YouTube. Donc, mes 3 abonnés de YouTube, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Vous écoutez le show à soir. Fait que c'est ça. Je veux vous entendre, je veux savoir d'où vous êtes. Posez-nous des questions pour nos invités, tout ça. Donc voilà. Sans plus tarder, on commence le show. J'amène mes invités. Mon premier invité, c'est un gars que j'ai rencontré sur un spectacle que j'animais, que j'ai invité, qui m'a été référé par un autre ami humoriste. Puis ça a cliqué vraiment. C'est un gars tellement sympathique. Un gars qui est un scripteur, un gars qui écrit beaucoup. Donc, on va jaser de ça avec lui, comment ça roule en ce moment, puis tout ça. Je l'amène avec nous autres, Pascal Mailloux. Bonjour, Monsieur Mailloux.
Hey, salut Simon, comment ça va?
Hey, ça va bien, tu sonnes super bien. C'est ça qu'on jasait backstage. Là. Tu t'es équipé d'un micro pendant la pandémie, puis ça, c'est formidable.
Pendant que tu parlais de ta bière, je suis allé m'en chercher une. Si bon, faut-tu en plugger une, nous autres aussi?
T'es pas obligé, mais si tu veux à plugger, go for it, là.
Hey, je suis allé visiter une microbrasserie.
Attends une minute, t'as pluggera avec les autres.
OK, les autres parfait. Jeunes.
Comme ça, ils vont pouvoir la découvrir, eux autres aussi. Sans plus tarder, je continue avec les autres. C'est un chum, un humoriste natif, ou je pense qu'il est natif d'Ottawa, mais en tout cas, on va l'amener, il va nous le dire. Alexandre Bizarion, comment ça va?
Ça va bien, toi. Est-ce que vous m'entendez aussi bien que Mailloux?
On t'entend un peu plus loin. T'as-tu un volume là-dessus? Ou...
Je sais pas. Je pense qu'il est juste moins bon que celui de Mailloux.
Ah.
Ouais, comment ça va? Ouais, j'ai d'Ottawa. Je viens d'Ottawa pour ceux qui se demandaient. Ottawa.
C'est ça. That's it. Mes informations sont bonnes. on amène mon prochain chum, puis après ça, on va. Mailloux, tu nous présenteras ta bière. Fait que l'autre, écoutez, c'est un gars que j'ai déjà reçu sur mon podcast, mais c'est un gars qui fait plus que de l'humour. Il fait c'est un BDiste aussi, un auteur. Donc, il va venir nous parler un peu de ses derniers projets, dont c'est l'illustrateur de la BD, Le Petit Monde de Billy, de Billy Tellier. Donc, vraiment cool, il va pouvoir nous parler de tout ça. Moi, il m'a dit que c'est lui qui avait tout fait, puis que Billy Tellier avait rien fait. Fait qu'on va pouvoir poser la question, voir si tout ça est vrai. Éric Pelado, comment ça va?
Ça va. Tu m'entends-tu? Oui, ça va bien. Oh, ça
se passe. Oui. T'entends parfaitement, mon vieux. Tout le monde, c'est drôle. Hein, au début, les podcasts que je faisais, là, tout le monde était sur leurs écouteurs sans fil ou bien donc sur même main libre, oui. Whatever. Puis là, tout le monde a des micros.
J'étais sur mon téléphone dans la salle de lavage, tout accroupi.
Ah ouais, je me souviens pour vrai. C'est cool. OK, Mailloux, vas-y, présente-nous ta bière. C'est cool. Si vous avez des bières que vous buvez, présentez-nous ça. Là. Moi, on commence tout le temps le show en buvant un petit peu.
Ben, c'est le fun.
Ou de l'eau.
Ben, en fait, c'est le fun. C'est que je suis allé dans un contrat télé qu'on pourra parler tantôt, mais on est allé visiter une microbrasserie à Pointe-Gamouc qui s'appelle Le Secret des Dieux. Puis là, je bouais la grisette de Gérard, des Gérards.
La grisette ouais. de Gérard?
La grisette des Gérards.
Les microbrasseries ont tout le temps des noms comme super originales qui ont rapport avec tout le temps l'histoire du village ou l'histoire de la place ou des fois c'est l'idiot du village là, pour pas le dire, mais il y a tout le temps comme un descriptif sur la bouteille là, puis il y a une histoire tout le temps.
Dans leur cas, c'était en fait, ils ont la microbrasserie est reliée avec l'église. Puis c'est l'ancien presbytère. Okay. Puis ils ont fait une brasserie là-dedans. Puis cool. Ils ont tous des noms religieux et tout. Ça vaut vraiment la peine. Ça a été vraiment une belle visite. C'était le coup.
Cool. Les microbrasseries, ils ont bien des belles illustrations aussi. Là. Il y a beaucoup de BDS et d'illustrateurs du Québec là, qui font des étiquettes vraiment écœurantes. Là.
T'en as-tu fait, cool. Eric, pour des
pas brasseries? Pas tout. Okay. C'est trop en fait. Quand il y aura de la bière pour enfants, là, on pourra...
Ouais, parce que à la base, t'es BDiste, mais tu fais surtout de la BD pour enfants adolescents, je pense. Mais,
ouais, littérature jeunesse, ouais, tout ça. Là.
OK, non, c'est cool. C'est cool. Moi, j'ai jamais les termes exacts. Là. Je fais... C'est tout le temps un peu bizarre ce que je dis. La preuve, c'est que quand j'ai commencé à aller chercher ma bière dans l'espèce de magasin de bière ici, j'appelais ça tout le temps comme une épicerie. Tu sais. Puis c'est une épicerie spécialisée. OK? Fait que faut que je fasse attention à ce que je dis. OK. Hey, mais Biz, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es un nouveau show que j'ai vu sur les médias. OK, tu bois quoi, toi, là? Une Hochelag?
Une Hochelag, quelle bière? Oh. Je ne sais pas ce que je bois, c'était dans mon frigo.
Tu te sentais mal, t'es parti tout de suite te chercher quelque chose à
boire. Non, ben c'est que j'achète ce qui est en spécial. Fait que je suis pas ce qui est deux pour je check les prix en rouge ou fait que je sais pas encore ce que je bois. Mais oui.
La mienne aussi est en spécial 2 pour 5,99
là. That's it. Ouais, elle est déjà tombée en spécial dans mon bouche, je l'ai déjà bu celle-là.
Excellente.
Donc, on est des fins connaisseurs de bière. On prend ce qui est en spécial.
Ouais. T'as les connaisseurs puis les personnes intelligentes.
Ça goûte quoi? Ça goûte pas mal moins cher que toi.
Ben, c'est ça. T'sais, moi, je vais avoir un feeling vers la 15e minute du podcast. Là. Je vais pas écrire l'histoire de la brasserie. Tu comprends? Mais Biz, c'est ça, j'ai commencé à te parler de ça. Tu as comme un nouveau projet super cool avec Stéphane Fallu. Parle-nous de ça un peu.
Oui, ben c'est un talk show, ça s'appelle Humour Local. Là, tu m'entends-tu bien? Vous m'entendez bien?
Ouais.
Là, c'est...
Okay. Ouais, je t'entends mieux. Là.
Fait que là, c'est Engage un humoriste. C'est ma gérante qui a parti cette plateforme-là de booking qui s'appelle engageunhumoriste.com. Puis elle a eu l'idée de lancer cette plateforme-là qui est Humour Local. Le talk show sur la plateforme Live dans ton salon, qui est comme Youp. Dans le fond, c'est les gens achètent leurs billets sur cette page web-là, livedantonsalon.com, puis là, ils ont accès au show live. Donc là, on a trois. On l'essaie pour trois shots. Puis par la suite, on va voir avec la réponse si on continue ça. Mais à date, c'est bien le fun. On a reçu des fous invités pour la première. Fait que ouais, c'est vraiment cool. C'est un peu champ gauche aussi avec Stéphane Fallu. Fait que c'est le fun. C'est comme un talk show un peu à la Julie Snyder, mais pas pantoute. Là, fait que ouais, je l'ai name droppé. Je pense qu'on va avoir des views avec ça.
Ah, j'aime ça. Mais dans le fond, c'est quoi le talk show? Vous recevez des humoristes seulement? Ou
Pour l'instant, oui. Okay. On est allé avec ce qu'on connaissait, puis avec le booking, c'était plus simple d'inviter des amis. Fait quoi, on a deux humoristes, puis on a une performance qui est habituellement soit de la musique ou de l'humour. Là, on a eu les deux à date, mais ça peut être n'importe quoi. Tu sais, ça pourrait être un lanceur de javelot. Ça risque de pas être ça parce que ça, c'est Chris Mantet. Regardez ça. Waouh, il a lancé un javelot. Mais tu sais, reste que ça peut être n'importe quoi. Fait qu'on est très ouvert, mais pour l'instant, on rôde autour de l'humour.
L'invitation est lancée. Si on a des lanceurs de javelot qui nous écoutent, contactez Biz, puis on va arranger quelque chose.
Même si vous ne voulez pas venir au show, contactez-moi si vous lancez des javelots dans la vie. Moi, je suis intéressé de savoir qui fait ça.
Ben, moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça quand j'étais adolescent au secondaire. J'étais champion de ma région au lancer du javelot.
OK, puis tu te vantes en plus.
Ben, écoute, c'est la seule affaire que j'ai été champion dans ma vie. Chris, faut que j'en parle un peu.
Wow, t'as-tu eu du fun?
J'ai eu du fun. Tabarouette, pas partout. Pour vrai, sérieux. C'est comme
un des... Tu le chercher?
Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, tu sais, c'est un des sports que tu peux pas vraiment te vanter de dire que tu es un champion de, parce que qui est impressionné de ça dans la vie?
Tu sais? Hey, vous êtes même pas assez finir le podium, tu sais, vous êtes deux sûrement en fer. Ouais.
C'est comme l'inverse du saut à la perche. Hein. Un saut à la perche, c'est la perche qui te goroche, dans l'autre sens, c'est toi qui lance.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Les deux cas, c'est pas ça qui est le plus écouté aux Olympiques.
Non. Clairement pas. mais tu sais, ça dépend. Si c'est juste avant le 100 mètres, il y a peut-être des chances. Tu sais, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui écoute la poule, il pogne tout le temps à la fin du tricheur, tu comprends? Fait que c'est un peu le parallèle que je peux faire avec ça.
Ouais, mais tu lances ça comment long, un champion? C'est comment loin tu lances ça, un champion?
Là, j'étais un champion du secondaire, là, Christy. J'étais pas champion olympique. Là, fait que pas très loin, finalement. Probablement quelques centimètres plus loin que les autres, là, mais pas tant non plus. Là. Je me souviens pas, pour vrai. C'est une maudite bonne question. Je vais fouiller dans mes stats personnelles.
va fouiller dans ton livre de graduation. Sûrement que quelqu'un t'a écrit un message. Waouh, tu lançais loin.
Non, en fait, je pense pas non plus. Les affaires roulent bien pour vous autres, les gars, malgré la pandémie. Tu sais, Eric, pour ceux qui ne savent pas, t'es qui? On a dit que tu étais BDS.
Personne ne sait chiquer.
un petit peu plus qu'avant, pareil, là, ta barouette. Là, t'as quand même illustré la BD du petit monde de Billy Tellier. Raconte-nous comment ça s'est passé, ça, cette histoire-là.
Vous êtes un bon vendeur en ce moment, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça passer.
Oui, ça se passe bien. Là. On est retourné deux fois en réimpression déjà.
Ah ouais, déjà.
Parce qu'ils en ont manqué. Comment ça s'est passé? Ben, ça fait longtemps que je suis dans le milieu littéraire, mais pour ce BD-là en particulier, c'est drôle parce que j'ai eu un texto pendant que j'étais dans un cours d'écriture humoristique là, de l'École nationale de l'humour, là, les cours du soir, mais qui se donnait à Gatineau. Puis le prof, Luc Boily, il avait lâché une ligne comme ça. Il disait, tu sais, c'est pas de la chance que il faut vraiment que tu provoques tes propres occasions. Comme la chance, elle va pas juste tomber comme ça. Faut que tu provoques des chances. Puis le courriel, quand il est arrivé, c'était pas genre, hey, tu veux-tu faire le livre? C'est à toi. C'est toi qui vas le faire. C'était, on aimerait ça te mettre dans le bassin. D'illustrateurs qu'on voudrait proposer pour une BD sur le petit monde de Billy. Puis ben, j'ai essayé de provoquer un peu ma chance en écrivant immédiatement à Billy pour lui dire que moi, j'ai beaucoup de passion pour l'humour, j'aime beaucoup l'humour, mais en plus, si je travaille avec lui, c'était pas pour être une commande, parce que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est illustrateur. C'est pas parce que tu illustres un livre que c'est nécessairement ton livre à toi. Puis, tu sais, surtout dans ce cas-ci, c'est vraiment un univers qui existe, mais moi, je voulais vraiment qu'on travaille ensemble. Donc, j'ai lancé ça comme ça, mais il a quand même passé par le processus là, d'aller voir les autres illustrateurs, mais il était bien impressionné par mon portfolio. Puis, à partir de là, on m'a proposé le projet. J'étais numéro un sur la liste des illustrateurs, puis le reste, ben, c'est ce que ça a donné. Ça a donné le livre que ça a donné, mais ça a pris environ un an et demi à faire le projet. Beaucoup de, tu sais, back and forth, tout ce qu'on... il m'écrivait des scénarios, puis c'était la première fois qu'il écrivait justement des scénarios pour la bande Disney. Fait que des fois, il y a des trucs qui sont écrits qu'on pourrait mettre en dessin, donc on n'est pas obligé de répéter tout le temps les mêmes choses. Donc, il y a eu une certaine adaptation, surtout au début. Puis plus ça allait, plus il s'habituait à la méthode d'écriture. Puis il me laissait un peu de liberté aussi. C'est lui qui a écrit, c'est ses personnages, c'est lui qui a écrit. Mais des fois, tu sais, je voyais un petit truc qui pourrait puncher de plus, un autre gag de plus, puis je lui envoyais. Puis souvent, je dirais, dans 90% des cas, il trouvait le gag bien correct, puis il me disait, jette-moi ça dans les poubelles, tabarnak, je veux rien savoir.
Mais OK, moi, je pensais que c'était genre ses meilleurs jokes à la radio, fait que c'est que
du... Il y en a là-dedans. Là, il est allé chercher, il est allé piger à gauche et à droite dans ses capsules, parce qu'il y en a quand même... ça fait combien d'années? 10 ans qu'il fait ça? C'est écrit en arrière-comique, il en a fait 1500 sketchs, puis je pense que c'est plus que ça à cette heure, de tous ces différents personnages. Donc, il est allé chercher là, puis Mais à part de ça, il a adapté pour que ça fit en une histoire. Puis moi, c'est surtout dans la structure que je suis allé retravailler certaines affaires. Je disais, ben, ici, on pourrait peut-être aller voir là une couple de gags de plus que j'ai mis, mais c'est à l'intérieur de ça. Fait que oui, il y a de l'inédit, mais c'est basé beaucoup, beaucoup sur ces sketchs, sur ce qui existait déjà comme matériel, mais adapté, là.
Nice, c'est pour vrai. Tu as illustré aussi un de mes gags, un des gags à Biz aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre projet qui est cool. Tu continues de le faire aussi. Il faudrait que tu fasses un gag de Pascal. Là, de
ne m'intéresse pas.
Mais un jour.
Tu que j'aime ça?
Non, non, certainement, là, souvent, ce que je fais, parce que là, j'ai. À chaque semaine, je vais faire les croquis dans un des gags. Puis, quand je vois que j'approche la fin de la semaine, là, je vais commencer à communiquer avec une couple d'humoristes à gauche puis à droite. Puis au début, ça prenait plus de temps pour aller chercher des réponses puis tout ça. Puis là, je commence à en avoir qui m'écrit pour savoir si j'étais intéressé à faire un de leurs gags dans le comic 19. Donc là, en ce moment, je suis 7. J'en ai 7 gags. Donc, pour les 7 prochaines semaines, j'en ai déjà. Puis, il y en a qui j'ai lancé une perche qui n'ont pas encore répondu. Fait que je pense que tant que je peux faire ça, je vais continuer à en faire. Puis oui, je te lance l'invitation, Pascal, si jamais ça t'intéresse. J'irai t'ajouter comme ami, puis tu m'accepteras si tu veux. Puis tu verras,
c'est 8e, quoi, 8e, c'est la liste.
Mais... Rien savoir, je veux rien savoir.
Tu m'accepteras dans 8 amitiés aussi.
Hey les gars, on a des commentaires d'un gars que vous connaissez peut-être, là, Christophe Dupéré. Il dit, c'est-tu vrai que Bizarion, c'est un ancien Hells?
Il est tout croche.
D'ailleurs, je tiens à dire que Dupéré, là, il commente sur le podcast, mais il était invité à faire ce petit podcast-là. Puis il m'a dit non, fait que tu voulais juste l'écouter, Chris? Ou...
Ça peut bien esti déjeuner au ramen. Il est tout le temps tout croche. Le matin, il est déjà tombé dans la course light. Il a tout le temps l'air de fermer. Il n'est même pas midi. Fait que...
il dit aussi il n'y a pas assez. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas d'assez bon maillot pour être illustré.
C'est trop de cul. Ah, Simol. Il fait de la projection sur moi, Simol.
Il dit qu'il était en corpo, c'est vrai, mais il m'avait dit qu'il était en corpo.
Il a fini à 2 heures.
Crime, Chris, c'est là de nous jaser. Si t'as rien à faire. Ben quoi que tu nous jases dans le chat, fait que c'est bien correct, on va te garder là, puis fais juste nous commenter. Mayu, toi, c'est quoi tes projets de ce temps-là? Parce que oui, je t'ai présenté comme étant un scripteur. Ben oui, tu fais de la scène, c'est sûr, mais t'es aussi un excellent scripteur que les gens s'arrachent, donc tu dois quand même travailler dans le temps de la COVID. Tu travailles sur quoi de ce temps-là?
Là, je travaille à me pogner le cul sur mon sofa. Solide, solide. Non, mais honnêtement, là, j'arrive, moi, j'ai travaillé super gros depuis juin. En fait, j'ai travaillé sur 2 projets télé. Un projet qui s'appelle QV Comique, qui est présentement à Z sur. On rencontre deux amis humoristes qui ont commencé leur carrière ensemble, puis on sort des vieilles archives de leur premier numéro à l'école, leur premier temps dans les bars, leurs souvenirs, mais avant qu'il y ait un hit, là, tu sais, dans leur début de carrière.
C'est fait bon, j'ai écouté.
T'as aimé ça?
Oui, j'ai bien aimé ça. Vraiment un beau concept.
C'est quel show qui est animé par Christine Morancy, ça?
Non, Phil Laprise.
Phil Laprise, okay.
Puis c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun à faire. J'ai fait ça cet été. Puis cet automne, j'ai fait une émission avec, justement, là, je suis allé visiter là. J'ai fait Comédie sur mesure à Z.
Ah ouais, OK.
Et, cool. Qui est en fait un humoriste qui va à la rencontre, il va dans un village à la rencontre de 3-4 intervenants. Puis à la fin du séjour, on fait un roast sur le visage puis les intervenants. C'est un astic de contrat, probablement le contrat le plus dur que j'ai fait, mais le plus le fun aussi.
Ah ouais, tu t'es promené un peu partout avec ça, là?
Alors, on est allé en Estrie, je suis allé dans le bas du fleuve à Pouanegamouk, où il y avait cette microbrasserie-là. On est allé dans le coin de Sept-Îles. J'ai fait
un contrat de commandite avec eux autres. Je vois aller, là.
Non, non, même pas, mais j'ai vraiment aimé la place. C'est vraiment le fun.
Mais t'as combien de temps pour écrire une journée?
Un après-midi.
Sacrifice, hein?
On rencontre, vous-tu, les intervenants sur 2 jours à peu près. Puis la deuxième journée, À midi, c'est fini. On s'en va avec l'humoriste écrire. On s'en va écrire le numéro là, jusqu'à 5-6 heures, le temps qu'ils l'apprennent, qu'ils écrivent des cartons, puis qu'ils fassent le show à 7h30 là, le soir. Là. C'est l'affaire la plus dure pour un humoriste. Pour vrai, là, l'admiration pour tous ceux qui ont fait ça. Là, pour vrai, j'ai eu Christine Morancy, Phil Roy, Mélanie Ganimé, Alex Perron, excusez-moi les gars, ça a sonné. Alex Perron.
On l'a même pas entendu. Ben moi, je l'ai pas entendu.
J'en ai eu plein. Yves Pépeltier. On a fait cette île aussi, Havre-Saint-Pierre, Longue-Pointe, Mingan.
J'ai fait tout.
Ça arrête tout. Moi, ça arrête pas. Là. Moi, je suis l'auteur. Fait que moi, je reçois le dossier de recherche. J'écris plein de gags pour commencer, tu sais, genre en avance, là, parce que là, il faut s'aider un peu. Là, on s'en va là-bas, on fait les activités. Après ça, je m'assieds avec l'humoriste, puis on écrit le show. À peu près 20 minutes de show qui écrit sur le roast, sur les personnes.
C'est fou pareil, là, tu sais, quand on sait...
C'est un bon concept, là.
Oui, c'est sûr, mais tu sais, quand on sait, on le sait tous, nous autres, là, comme 20 minutes de show, comment ça peut prendre du temps à écrire, tu sais. Des fois, ça prend un an à écrire un bon 20 minutes, là, tu sais, fait que...
Je vous jure, c'est fou. C'est dur, là, mais Christ que c'est le fun. J'ai eu du fun, là. En plus, tu te promènes, puis tu vois plein de pays, tu visites plein d'affaires, des micro-brasseries, des distilleries, des affaires, des attraits touristiques de la place.
C'était chaud des fois?
Moi, je bois pas, tu sais. Moi, je bois pas, fait que ben non. Ben non, c'est sûr. Non, mais juste avec l'équipe aussi, tu sais, que les gars, puis tout ça. Tu sais, c'est plate parce que la COVID, il y a beaucoup d'affaires de fermer, on peut pas aller dans un restaurant, puis tout ça, mais c'est quand même le fun avec la gang, là. C'est comme partir en tournée avec une équipe de 20 personnes, là. Fait que c'est fun, c'est vraiment le fun.
Est-ce que tu étais comme un peu limité à cause de la COVID, justement? Y a-t-il des trucs où tu as trouvé difficile par, tu sais, comme mettons, auteur suivre, aller dans un nouveau village comme ça, puis oups, tu sais, être un peu enfermé malgré tout, là? T'as-tu trouvé ça tough ou?
Ben, pas vraiment, parce qu'on est en gang, là, tu sais, c'est vraiment le fun pareil. C'est juste que c'est sûr que, tu sais, pour le tournage, là, c'est plus dur, là. Tu sais, t'as des masques 2 mètres, faut faire attention, tu sais. Faut super être vigilant, mais sinon, ça paraît pas tant que ça. Tu sais, on a fait des affaires super de fun pareil, puis on a trippé, là. Je pense que c'est des bons shows quand même. Là.
Tu te retrouvais pas non plus en zone rouge en allant à Havre-Saint-Pierre, certains, là?
Ben, en fait, c'est pour ça qu'on est allé là-bas pour avoir du public. Okay. On est allé là-bas parce que c'était en zone jaune, il pouvait avoir du public, puis ça pouvait être le fun.
Je pensais que tu allais dire, c'est pour ça que tu allais là-bas, les crissants en zone rouge.
ils ont amené leur virus à ce
là, mais on va aller à Val d'Or, ils vont tous les pogner. Mais c'est hot, Mario, c'est hot. Je savais pas que c'est toi qui faisais. C'est un de mes concepts préférés à date à télé, là, en fait d'humour. Là.
En fait, j'ai fait les 8 derniers shows au complet, là, de septembre à mi-novembre. Là.
Ben, là, ben, avec eu le mandat de la nouvelle saison, dans le fond, quasiment. Je ne sais pas c'est combien d'épisodes.
10.
C'est ça. Je pense que Yann Bilodeau t'avait remplacé une fois, je pense.
En fait, il est venu avec moi et Christine. C'était mon premier, je ne savais pas trop. Puis lui, il l'avait déjà fait avec Pinot. Fait qu'il est venu avec moi, fait que là, comme ça, comme vu que c'était le premier, lui l'avait déjà fait, ça a comme aidé un peu à bâtir le show, que ça soit moins dur pour la première fois. Là.
Ça, c'était la deuxième saison, je pense, c'est ça?
Quatrième saison déjà?
Ah ouais, OK. Tabarouette. Mais je savais que ça existait depuis un petit bout, mais je pensais pas que c'était tant que ça, quatrième saison. Yann Bilodeau, d'ailleurs, qui est un excellent auteur aussi, là, puis qui est venu sur le podcast, là. D'ailleurs, il va être content que je porte ma casquette des Dodgers. Ça, c'est clair. Ah, c'est cool, ces projets-là, pour vrai. Tu sais, même en confinement, en pandémie de même, il y a des affaires cool qui se passent en télé, puis un peu partout. Ça, c'est le fun, parce que ça avait ralenti. Tout était comme arrêté, les tournages, tout ça. Puis toi, mettons, Éric, là, tu sais, quand t'as créé la BD, tout ça, il y a une bonne partie qui s'est faite pendant la pandémie aussi, j'imagine, là, tu sais, comment que c'était, tu sais, de travailler dans ces circonstances-là, les rencontres, tout ça avec Billy, est-ce que c'était plus compliqué?
Ben, on était dans le dernier virage, pour de vrai. Je pense qu'il restait deux personnages à mettre en BD, mais tout le reste était déjà pas mal fait parce que c'est fait pas mal à l'avance, vu que surtout ce genre de bande dessinée-là, souvent ils vont l'imprimer en Chine. Ah ouais. Il faut finir le livre un bon 6 mois avant qu'il soit prêt. Puis là, en plus, à cause de la pandémie, justement, ça a repoussé un petit peu la sortie, qui était prévue pour septembre, je pense. Puis finalement, ça a été au mois de novembre que la bande dessinée est sortie. Fait que je pense qu'en avril, on avait terminé. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était en avril qu'on avait fini. Fait que ça n'a pas vraiment joué plus qu'il faut. Mais j'ai d'autres projets, par contre, qui ont été mis sur la glace avec d'autres éditeurs. J'ai un de mes éditeurs, pas pour l'aider. En plus, il y avait un problème en cours. Là. C'est l'éditeur de Hansel et Gretel, l'auteur qui s'avait fait poursuivre pour une scène de pédophilie dans son roman. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer.
Oui.
Il y a une enseignante qui a vu ça, ou en tout cas, une enseignante qui a vu un extrait dans un livre, puis qui a appelé la police par rapport à ça, comme si c'était de la pornographie juvénile. Je n'ai pas lu le livre, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est pas... Ça a été un peu trop loin, mais ça fait en sorte que l'éditeur en a souffert beaucoup, puis rajoute à ça une pandémie par-dessus ça, ce qui fait que je pense que j'ai 5 projets d'édition qui étaient supposés sortir chez cet éditeur-là, puis ça, je pense pas que ça va voir le jour, mais ailleurs, ça a été mieux avec d'autres éditeurs, justement, on dirait que les gens se sont mis à lire plus parce qu'on était, était confinés, fait que les ventes de livres ont quand même assez bien été. Là, justement, lundi de cette semaine, j'avais reçu un autre courriel d'un de mes éditeurs qui me disait qu'on partait en réimpression pour un autre de mes livres. C'est le 5e livre cette année qui se fait réimprimer. Là, fait que c'est quand même... Ça ne m'arrive pas souvent maintenant. Je suis pas un auteur, je ne suis pas Patrick Sénécal, là, donc c'est rare que ça m'arrive. Je m'attendais
j'espère
que ça arrive.
Parce que tu fais du truc jeunesse, j'espère que c'est pas hard comme Sénécal.
Je m'attendais que ça arrive avec le livre de Billy, là, qui est des réimpressions, mais avec les autres. Et ça, c'en est un, justement. J'ai un numéro qui parle de ce livre-là. Donc celui-là, il part en réimpression.
Je savais que Biz allait aimer le jeu de mots.
Ah, ben, c'est le dernier livre que Chris a lu, il m'en a parlé.
Ouais. C'est là qu'on va voir s'il nous écoute encore. qu'est-ce qui te fait le plus triper, par exemple, Eric? C'est-tu comme de partir un projet de A à Z de toi-même ou travailler comme ça avec un humoriste puis de sortir de quoi de cool comme ça?
Moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est vraiment quand j'ai quand même un certain contrôle. Donc, c'est sûr qu'un projet que j'écris de A à Z, que je dessine de A à Z, c'est tout le temps le fun parce que c'est moi le réalisateur, acteur, etc. C'est moi qui fais tout. Quand je travaille avec quelqu'un d'autre, ce que j'aime, c'est justement, en autant qu'il reste une certaine liberté, comme avec le projet de Billy, c'était fantastique. D'un, je suis groupie d'humour depuis que j'ai comme 7-8 ans. Donc, de travailler avec un humoriste, de travailler sur des projets de ce genre-là, c'est tout le temps un plus. Mais en plus, c'est un projet qui était le fun à faire parce que c'est pas tous les projets. Pas parce que je suis associé à un humoriste sur un projet que ça va être nécessairement le fun à faire non plus. J'aurais pu être vraiment dirigé à 100% là-dessus. Donc, quand c'est un travail d'équipe, c'est super le fun. Puis quand j'ai la chance de développer. Justement, je travaille sur un autre projet, mais celui-là, on n'a pas encore d'éditeur, là, mais avec deux autres humoristes, en espérant que ça qu'on va trouver le bon éditeur pour ça, puis que ça va marcher. Ben, j'ai bien du fun avec ce concept-là aussi.
Là, il n'y a quasiment pas personne qui nous écoute. Moi, je pense que tu peux dropper des noms, là, mais c'est
comme ça. Ouais, alors, ça ne dérange pas. C'est juste, si ça marche pas, c'est plate pour eux autres de dire ben leur livre n'a pas été accepté. Là. Mais c'est vraiment bon. Mais c'était avec un ami, Alexandre, justement. Là, donc, tu n'as pas beaucoup d'amis, fait que tu devrais savoir c'est qui.
il y a un nom qui me vient en tête.
OK.
Ben, let's go, Stila, là, vous allez trop loin dans votre discussion. Là, puis,
moi, j'ai aucune idée de qui tu parles, mais.
Ah, c'est Mick Dallaire, c'est un ami à toi, ça?
Ah oui, OK, oui. Ouais.
Avec Mick puis Simon Laroche, c'est ça?
Oui,
ouais.
Je me trompe tout le temps, je l'appelle. Ah, c'est ça. C'est...
Ah, cool. Ben oui, on a fait l'école ensemble.
Donc.
Primaire ou secondaire?
Ah, c'est un autre gars de Gatineau, ce Mick.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mick donc, anime une soirée à Gatineau aussi. Cool.
C'est justement, on développe un petit truc ensemble. Puis si ça pogne, je le souhaite. Là. On a le pitch de faire. J'ai envoyé ça à des éditeurs. Puis là, c'est The Waiting Game. Ça peut être long, ce coup-là, parce que tu peux pas, quand tu as un projet de livre, tu tu choisis certains endroits, tu as genre des paliers, là. Tu sais, tu veux jouer professionnel, puis après ça, tu descends tranquillement, puis tu finis d'une ligue de garage. J'espère qu'on ne jouera pas d'une ligue de garage, j'espère qu'on va rester dans les professionnels, mais je ne peux pas envoyer à tous les éditeurs en même temps parce que tout d'un coup, la ligue de garage m'appelle en premier, je vais me sentir mal de dire non.
Mais mettons, est-ce que tu aimerais faire le saut en télé? Je dis n'importe quoi, là, mais mettons que je t'appelle, je fais « Hey, j'ai une idée là, de faire un cartoon, la Télétoon. » T'as-tu déjà fait ça ou t'aimerais-tu ça?
J'ai étudié en dessin animé. J'ai fait une coupe de comment on appelle ça, des options, là, j'ai une coupe de concepts qui ont été signés avec des producteurs, mais c'est le processus est tellement long. J'en ai une coupe de mes projets, de mes livres qui ont eu cette possibilité-là, mais que c'est tombé à l'eau pour raison X ou Y. Personnellement, oui, j'ai toujours voulu faire du dessin animé, travailler dans le dessin animé, puis j'en fais dans mon travail. Là, je fais des capsules animées, j'en ai fait. J'ai travaillé plus une couple de shows de télé aussi. Mais ça se pourrait que la BD de Billy devienne une série télé. Puis même si c'est pas moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai créé le visuel. Donc, ça, il se baserait sur mes personnages pour le faire. Puis justement, Billy a lancé ça dans l'univers. Là, il en parle dans presque toutes les entrevues qu'il a faites, qu'il aimerait ça que ça devienne un dessin animé. Ça devient un dessin animé, c'est un peu mon visuel qui va se retrouver à la télé. Fait que ça, je trouverais ça bien cool. Mais ouais, ça a toujours été un rêve de petit gars de me retrouver en dessin animé à télé. Pas moi personnellement, mais.
Vas-y, Mayu, t'as pas besoin de lever ta main. Tu peux
non, mais je voulais juste pas le couper parce que. Mais tantôt, tu disais que tes livres étaient imprimés en Chine. Au niveau de l'animation. Il y en a, mais est-ce qu'au niveau de l'animation, là, télé, tout ça, c'est-tu fait en Chine aussi ou il y en a ici un peu à cette heure?
Il y en a ici, ça dépend des étapes. Quand j'étais sorti du collégial en dessin animé, c'était surtout l'animation était faite à l'étranger, l'animation sur papier, puis tout ce qui était décor, les poses clés, parce que les poses clés, c'est, mettons, là, ça va être super simple, un bonhomme debout, un bonhomme assis, ça, c'était fait ici. C'est envoyé en Chine ou dans un pays où c'est un enfant qui allait le dessiner. Là. Puis, je dessinais le outre, tout ce qu'il y avait entre ça. Ouais. Donc, toutes les images entre ça, c'est fait ailleurs. Mais là, de plus en plus, il y a de plus en plus des différentes étapes qui sont faites là. Quand il a commencé à avoir de l'animation en vectoriel, le flash, là, que le flash, ça n'existera plus là, ou ça n'existe plus. Mais quand ça a commencé fort, ici, tout était fait ici. Puis, je me rappelle une fois, moi, j'en faisais beaucoup du dessin animé pour des sites Internet, toutes sortes d'affaires de même. À un moment donné, j'ai reçu un appel chez nous, puis ça dit « Yes, we do animation, you need animator! » J'ai comme « Qu'est-ce que c'est ça, si? » Tu sais que tu appelles un gars chez eux dans son sous-sol en bobette. Et non, je ne sais pas si c'est un dessin animé. Je n'ai pas besoin de faire animer par personne. Donc, j'ai déjà eu un appel de la Chine pour faire embaucher des animateurs chinois. Pour faire. Mais oui, il y en a beaucoup qui se fait à l'étranger. Il y a beaucoup d'étapes qui se font à l'étranger. Généralement, les superviseurs là-bas, c'est des superviseurs soit de l'Europe ou des États-Unis, du Canada. Puis ils vont faire la job sale qui prend beaucoup de dessins, mais qui fait que ça coûte moins cher à le faire à l'étranger.
Mais you, Biz, aimeriez-vous ça écrire pour une série de animée comme ça?
Oui.
Ben, en fait, moi, c'est arrivé un peu. J'ai fait, tu sais, les grandes gueules.
Les grandes gueules,
ils ont fait. En fait, j'ai écrit un épisode. J'étais vraiment, vraiment occupé cette année-là. Mais Jean-François Léger m'avait donné un bon coup de main, qui était le script éditeur là-dessus. Puis j'avais fait un épisode des Grandes Gueules. J'ai appris qu'il fallait prendre des sketchs des Grandes Gueules puis l'adapter un peu pour faire un épisode avec ça, là, avec deux ou trois personnages. Là. J'avais trouvé ça dur, pour vrai, parce que j'étais très occupé, mais j'avais beaucoup aimé ça. Là, parce que, tu sais, Télétoon... Écoute, moi, je pensais que j'avais été vulgaire dans mon épisode. Tout est revenu en disant « Tu peux aller un petit peu plus loin. »
Ah ouais? Écoute,
juste pour vous dire, la finale, là, c'était « J'éteignais un feu avec une femme fontaine.
» Hey, Mario Tessier nous a parlé de ça quand il est venu sur le podcast.
Je te jure, c'était ça la fin de mon épisode. T'sais, je pense, t'sais, j'avais envoyé de quoi, puis ils ont fait « Tu peux aller un petit peu plus loin. »
T'as réécrit, puis t'as c'est malade.
Ouais. Fait que, ouais, j'avais bien aimé ça, mais j'aimerais ça d'autres projets comme ça, tu sais, pour apprendre parce que tu peux aller plus loin. Il n'y a pas vraiment de limite. Mm-hmm. C'est ça qui est
c'est
cool
ça,
quand même.
C'est comme tu fais parler des personnages. C'est le même. Tu fais un personnage sur scène, tu peux aller plus loin dans tes propos. C'est la même affaire que les cartoons. Ouais. Moi, j'aimerais ça faire des voix aussi.
Tu sais, ça amène un bon sujet pareil, tu sais. Les personnages en humour, c'est tout le temps un peu perçu comme « Ah ouais, tu sais, les personnages, c'est plus ça, là, puis tout ça. » Par contre, Colin, tu peux faire parler ton personnage des fois crissement plus que toi-même sur scène, tu sais. J'imagine qu'il y a plus de possibilités, puis tu peux aller un peu plus loin dans ce que tu dis, etc., etc. Fait que,
moi, chaque fois que je vais être vulgaire, je fais un personnage sur le web, tu sais. Je veux
Tognotes.
T'sais, Tognot, il n'y a aucun sens, là. Puis là, je veux le sortir là, à l'hiver, mais il est tellement tough, tu sais, parce qu'il peut, peut être mal perçu. Fait que l'écriture est tout le temps touchy, mais avec lui, le monde, il aime ça quand je fais des jokes de poudre, tu sais. Je pourrais jamais faire ça sans scène,
tu sais. C'est-tu toi qui l'a publié, l'extrait, ou est-ce que c'est Pepper qui t'interview?
Ouais, c'est sur mon Instagram, moi. C'était un beau moment, ça. Puis j'ai retrouvé ça sur YouTube. Moi, c'est sur mon Instagram.
C'est drôle, là, pour vrai, là.
Ouais, il dure 6 minutes. Je vais en sortir un autre extrait cette semaine. Ça va, c'est de pire en pire, là. Ça, c'est rien, ce que vous avez vu, là. Après, ça chie, là.
Ah, c'est tellement bon. Ça m'amène à vous parler un peu de hockey, les gars. Mayu, je sais que tu es un fan de hockey. Biz, un peu. T'as pas le choix, t'es un personnage de hockey. Fait que, Krim, tu dois aimer ça un peu. Éric, je sais pas, on se connaît pas assez pour savoir si tu aimes le hockey, mais
moi, la dernière, en fait, quand je vais dans les écoles, souvent, on pense que je suis, c'est quoi, le gars de Boston, là?
Chara?
Souvent, j'ai rentré dans les écoles. Hey, t'es-tu Chara? Pas sûr, j'aurais peut-être pas cet accent-là pour commencer.
Oui, mais t'es comment grand?
Je suis 6 pieds 3, 6 pieds 4. Et je sais qu'il est assez grand aussi.
La dernière fois,
j'ai patiné, c'est la seule anecdote de hockey que j'ai. La dernière fois, j'ai patiné, c'était en 8e année au primaire. Puis, j'avais pas de patin parce que ma pointure de pied a suivi mon âge jusqu'à l'âge de 15 ans, donc chose des 15. Mais à 12 ans, je portais des 12, 13, 14, 15, ça me suivait, puis j'avais la chienne.
Ah, ouais.
Fait qu'en 8e année, je pense que je chaussais des 14. Puis finalement, il allait patiner ce jour-là.
Il a passé à maillot.
C'est parce que tu ne sais pas c'est quoi la 8e année.
Mais c'est ça. Je pense qu'ils ont pris pitié de moi parce que j'avais pas de patin. Puis quand j'y allais, je courais sur la patinoire, je sais pas trop. Puis le directeur de l'école me prêtait ses patins pour ce jour-là, qui est la seule journée que j'ai patiné. Puis ce gars-là, son nom, c'est Carole Yell, puis c'est le père à Stéphane Yell.
Ah ouais, donc,
chausser les patins du père d'un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Fait que c'est l'anecdote de hockey.
Chris, t'as une meilleure anecdote de hockey que nous trois réunis probablement, Chris.
Ouais.
C'est fou pareil. Colin, c'est donc bien cool. Mais tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça va-tu recommencer en janvier? Ils ont parlé du 13 janvier ou du 11 janvier. Hey, il faut qu'ils startent les camps d'entraînement puis ça presse.
Ils se sont-ils entendus sur les deals? C'est quoi, là?
Ça sort un petit peu par les journalistes comme c'est là, mais il n'y a pas encore rien d'annoncé, là. Mais techniquement, ce serait un retour autour du 11-13 janvier, mais ils négocieraient par après tout l'aspect monétaire. Fait que, en tout cas, je pense pas que ça s'est déjà fait, là, cette procédure-là. Ouais, fingers crossed en maudit.
Mais c'est ça, comme tu dis, il faut qu'ils partent le camp d'entraînement. Fait qu'ils commenceraient le camp d'entraînement le 13.
Non, ils commenceraient avant ça, pendant le temps des fêtes. La
saison commencerait le 13?
Oui.
Le 25. Je vais faire un parallèle, le gars de 6 pieds 4 va parler de basket. Mais le basket, ils ont fini les playoffs, les finales, c'était au mois d'octobre, puis ils viennent de recommencer leur pré-saison là, en ce moment.
Ouais.
Puis ils n'ont pas eu ben de temps. Le draft, tout ça, ça s'est fait dans une couple de semaines. Puis je pense que la semaine prochaine, ils commencent la saison ou la semaine d'après. Donc
soit que la NBA sont moins gourmands, mais ils ont aussi plus d'argent en partant que la NHL.
Oui, mais la différence aussi, c'est que la NBA, il y a juste à Toronto qui ne peuvent pas jouer, j'imagine. Là. Toronto, vont-tu jouer ailleurs?
Ils ont un autre aréna ailleurs. J'oublie c'est où, là, mais je pense que c'est plus dans le sud qu'autre chose. Là, mais ils sont déjà aux États. Là.
C'est parce que l'affaire, c'est qu'ici, avec le hockey, c'est qu'il y a des clubs canadiens qui ne peuvent pas se rencontrer. Puis aux États-Unis, ils peuvent se voir. Ça crée un trouble. Je pense que c'est là qu'il y a le problème là, pour la Ligue nationale. Là.
Il avait fait une bulle
Oui.
La bulle était au Canada, elle était aux États-Unis ou il y en avait une
Il y en avait une à Toronto.
Toronto, okay. Edmonton. Fait que c'était les deux au Canada. Fait qu'il avait amené tout le monde au Canada, puis c'était bien correct. Là, il parle de faire une division canadienne uniquement. Donc, les équipes canadiennes joueraient seulement au Canada. Mais, tu sais, à un moment donné, va falloir qu'ils se croisent, là, tu sais. Puis, fait que ça va-tu être encore un playoff en bulle comme il avait fait au dernier playoff. C'est une possibilité. Mais là, le problème.
C'était bon, c'était correct.
Ça faisait du hockey au moins. D'ailleurs, mon prochain invité, qui est le DG et l'entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau, eux autres aussi là, sont arrêtés pour la période des fêtes. Puis le hockey junior, eux autres, c'est quasiment mieux de même parce que c'est le championnat du monde de hockey junior. Puis à chaque année, les équipes perdent des joueurs. Puis, ça leur fait mal de ce côté-là. Là, il n'y aura pas de hockey qui va jouer pendant le championnat. Mais après, il va falloir qu'ils repartent, puis c'est une autre affaire. Là. Ils pourront pas jouer dans des bulles tout le temps. Fait que j'ai hâte d'y en parler pour voir qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Mais Eric, t'as parlé de basket, Colin. T'as joué professionnel, toi, au basket.
Là, tu parles de moi? Non, j'ai pas joué partout professionnel.
Non? OK.
c'est Steven, ça, qui a joué.
OK. Mais je pensais qu'il m'avait dit que t'avais joué aussi. Fait que,
non, mais moi, j'ai juste joué très, très longtemps, mais pas professionnel. Moi, je me suis rendu jusqu'au collégial, j'ai été coupé, puis j'ai joué dans les ligues de garage. Donc, j'ai pas joué au professionnel, j'ai joué dans mes ligues de garage, mais jusqu'à l'année passée, je jouais encore. Là, je pense, je suis même pas certain que je serais capable de recommencer. Je pense avoir mal partout. Puis, c'est venu à un moment donné où ce que je jouais, puis le lendemain, j'étais plus capable de bouger, mais je jouais parce que j'aimais ça. Mais là, mon corps s'est comme rétabli un peu de pas faire autant de sport physique. Je suis sur un elliptique, puis d'attitude. Je suis pas certain que je vais pas recommencer à jouer. Puis, j'étais le plus vieux, de toute façon, là, à l'âge que j'ai.
As-tu des ligues de garage de basket?
Oui, mais il y en a une très compétitive au Collège Algonquin, là, que j'ai été dans cette ligue-là pendant une bonne quinzaine d'années, parce qu'il y a des anciens pros d'Europe, là, okay. Beaucoup de joueurs universitaires, collégiales qui jouent dans cette ligue-là. Puis il y a différents paliers, donc les poches sont en division 3, tu as les papiers dans division 2 puis division 1, c'est tous ceux qui ont joué finalement collégial, professionnel, puis que la majorité de l'équipe a joué professionnel, tout ça. Fait que dans division 2, c'était un mélange de tout. J'étais surtout dans division 2. On a passé, je pense, une ou deux saisons dans division 1, mais on se faisait claquer quasiment à chaque game.
Bon, tu vois, pour moi, ça, c'est jouer professionnel. Division 2 de Ligue de garage de basket, moi, ça, c'est du professionnel pour moi. Hey, les gars, avant que je vous flush pour parler à mon prochain invité, parlez-moi un petit peu de vos projets qui s'en viennent. Je sais qu'on est en confinement, on a les shows, c'est au ralenti. Moi, j'ai fait un show vendredi, je capotais. Pour vrai, c'était comme si c'était la première fois que je montais sur scène. Là. Je voulais plus descendre, là. Je voulais juste rester là puis continuer. Mais vous autres, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? On peut commencer avec Pascal.
Ben moi, j'ai un corpo le 21 web là, devant. Ça va être la première fois que je vais faire ça. Là,
ah ouais, ok, ouais.
Ouais, devant.
Tu vas chier des tacs, mon gars.
j'ai hâte de voir. Là. Je vais faire ça le 21. Puis sinon, ben j'ai commencé peut-être. On m'a demandé des disponibilités pour un show à TVA là, qui serait présenté en fin janvier, un one-shot deal. Mais c'est pas sûr encore. Là. On m'a juste demandé voir si j'étais disponible ou pas. Là. Fait que je vais peut-être écrire l'écriture pendant le temps des fêtes, là, parce qu'on peut pas se promener, je peux pas aller voir ma famille. Fait que je vais peut-être écrire un peu là, pendant le temps des fêtes. Je vais savoir cette semaine.
Bon, cool ça. Pas mal ça. On va te suivre. On peut te suivre sur Facebook aussi, j'imagine.
Oui.
Cool.
Sans problème.
All right. Merci d'avoir été là, mon chum. C'est cool. Ça, on s'est vu en show une fois, puis on s'est cliqué. C'est vraiment cool que tu sois venu me jaser.
Amour.
Merci. Merci à toi, puis bien content d'avoir rencontré Eric, puis d'avoir vu le beau biz. Qu'est-ce qui est beau, hein? Il est beau, biz.
Biz, depuis tantôt, je le regarde, puis il est comme à gauche de l'écran, en haut de son nom. Tu sais, t'es pas obligé de rester en haut de ton nom. Là, tu peux...
Non, mais c'est pas très. Je peux faire ça.
On dirait que tu essaies de t'en aller chez Eric.
Non, mais. Non, mais je sais pas pourquoi. Je suis resté. Mon micro, il a l'air chancelant à soir. Fait que je me suis mis en arrière du micro. Puis j'ai
décidé de pas bouger. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, mon chum?
Ah, mais juste à dire, Pascal, je te niaise là, pour le corpo, mais c'est l'affaire la plus stressante. Moi, je fais des corpos en ce moment là, de mon salon, puis c'est l'affaire la plus stressante que j'ai vécue. J'ai été plus stressé que mon gala, mon premier gala juste pour rire. Je suais, esti, puis, mais une fois que ça part, c'est le fun. Okay. Tu demandes aux gens de garder leur micro ouvert puis d'allumer leur caméra. Fait que j'ai ça, j'ai des corpos de Noël. Sinon, je fais le gala de Rachid Badouri à Québec le 22 janvier. Fait que
c'est cool.
Mon premier gala comédia à Québec.
Ah ouais,
je sais, nice. Je pense cool. qu'il n'y aura pas personne dans la salle, mais bon.
Mais prends-les pas personnel, c'est pas de ta faute.
Non, je le prends pas personnel. Sinon, tout porte à croire qu'il va y avoir une saison 2 de ma web-série sur Novo qui s'intitule Top 2.
Cool. Vraiment nice. Là, tu viens de geler. Je ne sais pas si tout le monde te voit geler, mais ouais. Moi, je te vois geler. Fait que... Juste à temps pour la fin. Ça va bien si tu ne nous vois pas. Toi.
On est tous...
C'est moi.
OK, mais bye, Biz. Merci d'avoir été là, mon chum. Fait que je vais t'enlever de l'écran juste parce que... Ouais, c'est ça. T'avais l'air fou. Éric, à ton bord, qu'est-ce qui s'en vient? Je sais que tu en as parlé un petit peu, mais y a-tu des...
Ouais, ben moi, j'ai hâte de pouvoir refaire de la scène. Moi, je venais juste de commencer. Là. Je suis très open-miker, mais je me mets ça sur pause vu que justement, je venais de commencer jusqu'à fait qu'on puisse vraiment retourner dans les clubs et tout.
Hey, attends une minute, Éric. Oui. Biz vient de m'écrire, il a manqué de batterie.
J'espère que on est en train de parler pour aller voir un tome 2 parce qu'il y a un bon engouement pour ça. Puis,
ah ouais, cool.
La demande est là. Sinon, j'écris. Je travaille sur des romans. J'ai commencé à écrire des romans l'année passée, puis j'ai bien du fun de faire ça. Donc, je continue ça. Puis projet Comic 19. Donc, c'est sur Facebook, ça aussi, où je fais un gag en collaboration avec un humoriste. Je prends leur gag, je fais une capsule en une image, puis j'en fais un à chaque semaine. Tant aussi longtemps que je vais avoir l'énergie d'en produire, je vais continuer à en produire. Puis, Pascal, je te lance l'invitation. C'est sûr que je vais. Je vais t'envoyer ça. Puis, ouais, ça se peut que ce soit dans 8 à 9 semaines. Je ne sais pas trop. Mais...
Faudrait que tu refasses un gag de moi aussi, parce que j'ai perdu 30 livres depuis ce temps-là. Puis, tu m'avais fait très gros.
j'ai tendance à exagérer parce que c'est caricatural, tu exagères, mais je suis pas conscient que ça peut faire un petit peu de peine. Je peux redessiner le même, puis là, je vais aller sur Photoshop, puis je vais juste amincir la case au complet.
Hey, c'est bon, j'aime ça. Hey, merci les boys d'avoir été là. Vraiment cool, puis on s'en jase bientôt. Ça. Salut merci les boys. Bonne chance dans vos projets, ciao. C'était vraiment une belle discussion. Bon, maintenant, on s'en va parler de hockey un peu. Biz, merci, son laptop a lâché. Merci, Biz, d'avoir été là. On n'a pas pu te dire bye comme il se doit. Donc, on part tout de suite avec mon prochain invité. Vraiment content qu'il ait accepté. Je l'ai achalé un petit peu, mais je trouvais ça cool d'y parler, notamment parce que, bon, il est nouvellement, c'est sa première saison en tant que DG et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, un déménagement en Outaouais et tout. Donc, on va jaser un petit peu de ça avec lui, comment c'est d'arriver dans une nouvelle équipe et tout. Mais aussi, tu sais, bon, ça, c'est pas évident de gérer une équipe de hockey de ce temps-là. On va jaser un petit peu de ça avec lui aussi. Donc, je l'amène avec moi, Monsieur Louis Robitaille. Bonjour Louis, comment ça va?
Salut Simon, ça va bien toi?
Ça va super bien. Écoute, faire une entrevue avec un coach de hockey de ta notoriété, moi, j'ai pensé que j'étais pas assez grand pour faire ça. Donc, j'ai pensé d'amener un invité avec moi pour comme co-animateur, puis je l'amène tout de suite avec moi. Je pense que tu vas reconnaître sa face. Il s'appelle Étienne Dano. Salut Étienne Dano, comment ça va?
Yeah!
Yes! Là, explique-nous, Étienne ou Louis, pourquoi Dano puis Louis, vous vous connaissez? Ça va intriguer le monde un peu.
Un beau soir d'hiver, il y a 10 ans, Étienne et sa famille m'ont accepté, surtout chez mon oncle Pierre dans le garage. Là. Écoute, dans ce temps-là, j'étais un petit peu plus maigre. Peut-être plus cute également, mais je suis marié là, à la sœur d'Étienne. Étienne, c'est le parrain de ma fille Rachel également. Donc, je suis très heureux d'être dans la famille d'Étienne et dans la famille d'Anneau.
Cool, vraiment. T'sais, on a eu l'idée, moi et Étienne. Étienne est venu sur le show puis il a dit si tu finis par recevoir Louis, il dit moi je veux y aller. Il dit toi tu lui poserais une question sérieuse puis moi je vais l'amener dans un coin où est-ce qu'il veut pas aller.
C'est bon, ça fait longtemps que je suis pas allé là dans un coin.
Ben, c'est ça, on peut peut-être jaser de ça. Là, oui, t'es entraîneur et directeur général des Olympiques de Gatineau, mais t'as une carrière de joueur de hockey. Puis quand je suis allé sur Google, Louis, j'ai juste trouvé des images de bataille. Fait que j'aimerais que tu te vantes comme joueur de hockey. Est-ce que tu étais juste un bagarreur ou tu étais capable de faire autre chose?
Non. Écoute, je suis de retour dans l'Outaouais, mais je pense que c'est ici que tout a commencé là, avec l'Intrépide des Gatineaux là, à l'âge de 16 ans. J'ai joué junior majeur avec le Rocket de Montréal et puis j'avais fait quelques camps de la Ligue nationale, là, que ce soit avec les Coyotes de Phoenix, les Islanders de New York, puis j'ai vraiment fait ma niche avec les Capitals de Washington au camp d'entraînement en 2003. Puis veux pas, de fil en aiguille, il faut que tu te crées un rôle. On utilise l'expression, c'est une jeune dans le hockey professionnel, mais moi j'ai fait mes débuts l'année avant le lockout de 2005. Et puis quand le lockout est arrivé en 2005, il y a plusieurs joueurs de qualité de la Ligue nationale qui ont redescendu au sein des ligues mineures. Puis quand tu parles des Brian Serby, des Boyd Gordon, Alexander Semin, Jared Allen, Sean Morrison, moi je me retrouvais dans une situation où est-ce que j'étais peut-être pas un joueur repêché. Puis dans ce temps-là, vous vous rappelez peut-être pas, mais les Capitals de Washington, ils avaient fait une vente de feu là, que les Bondra, les Connor Walchuk, les Jeff Halpern, Anson Carter, il y avait acquis beaucoup de jeunes joueurs de talent, de qualité, des joueurs qui avaient été choisis en première ronde. Puis moi, il fallait que je fasse un petit peu ma niche là-dedans, étant le Québécois, l'outsider, pas repêché. Puis j'ai eu la chance d'avoir un coach qui m'aimait beaucoup, là, Tim Army, qui a coaché avec Patrick Roy avec l'Avalanche Colorado. Tim, il a cru en moi. Puis, tu sais, il m'a gardé dans la Ligue américaine cette année-là. Puis, tu sais, ça aurait pu casser direct là. Puis, s'il m'avait envoyé dans la East Coast, j'aurais peut-être abandonné deux ans plus tard. Tu sais, il a cru en moi. J'ai resté là. Puis, je vais me rappeler, il y a un match qui m'avait mis en avant comme joueur d'avant. Puis, je jouais avec Boyd Gordon, justement. Puis, Thomas Fleischman, qui est le Canadien. Là, il a joué avec le Canadien. Mm-hmm. Puis, on jouait contre Manchester. Puis, il y avait un dénommé Bruce Boudreau qui coachait l'autre côté. il coachait le club école des Kings, et puis disons que j'avais fait un petit spectacle, là, j'avais frappé, je m'étais battu, j'avais dérangé un petit peu l'adversaire, puis l'année d'après, Bruce, c'est lui qui nous coachait à Hershey. Puis il m'a adoré en avant, puis George McPhee, qui est le président présentement des Golden Knights de Las Vegas, il était venu me voir, puis il m'avait dit « Oui, si tu vas avoir vraiment une carrière dans la Ligue nationale, je pense qu'il faut que tu joues en avant ». Moi, je suis un défenseur, là. Tu sais, je suis un défenseur junior, je suis un défenseur de 3. Puis, j'avais signé mon premier contrat comme défenseur. Puis c'est là que je m'étais vraiment établi comme attaquant. Mais tu sais, attaquant, on va dire une chose. Tu sais, je rompais la rondelle, je frappais, puis je dérangeais, puis j'allais me battre une fois de temps en temps. Mais ça, ce que tu dis, dans ce temps-là, c'était populaire. Puis c'est là que j'ai fait mes débuts dans la nationale. J'ai joué dans la nationale en 2005. On a gagné la Coupe Calder. Puis, tu sais, j'ai eu la chance de jouer presque 10 ans dans la Ligue américaine. Et puis, à un moment donné, la sœur Étienne était allée me voir, arrivait avec des black eyes. Puis, j'avais un petit garçon également là, qui avait 2 ans. Puis, on a décidé de passer à l'après-carrière. Puis, Amélie a travaillé à Bois-Noir. Il y avait les Braves de Valleyfield dans notre région. Puis, c'est là que j'ai décidé de me lancer en coaching, qui était une passion pour moi, de développer des jeunes joueurs. Puis, là, aujourd'hui, ça m'amène ici à Gatineau.
Fait qu'Étienne, t'avais déjà vu jouer Louis au hockey, toi, là t'es pas... Quand il est arrivé dans la famille, je veux dire, tu l'avais déjà vu jouer?
Non, mais par contre, je suis déjà monté à Albany.
Ah ouais? OK.
Ouais, quand Louis jouait pour un club école des Devils, j'étais monté à Albany, il voulait jouer une game, puis il avait même scoré ce jour-là.
Ouais, il était chanceux, il restait une des deux games que j'ai scoré, il en avait juste eu deux, je pense, cette année-là. Il était monté avec Pierre Hébert, on couchait dans l'appartement, justement, puis on avait été à Cooperstown, ça se peut-tu, Étienne?
Ouais, temps-là? On avait été à Cooperstown, en plus, ça, c'était malade mental.
C'est donc bien cool.
Puis le lendemain, on avait été voir Pierre, l'idole de Pierre Hébert, c'est Martin Brodeur. Puis le lendemain, Louis nous avait eu des billets pour une game des Devils. Puis Martin Brodeur, cette saison-là, il y a 2 games qu'il n'y a pas goalé à domicile.
Ça en était une.
Hey, tu peux pas être chanceux partout, Étienne. T'as pogné un de mes 2 buts. T'as pogné l'envers de la médaille avec Martin, mais tu sais, à un moment donné, hein? T'as pas juste acheté un billet de 49 à 3 semaines.
Hey, c'était qui le backup déjà?
C'est pas une eu 12 probablement par année. C'est peut-être Mike McKenna. T'as peut-être été chanceux puis t'as pogné une de Mike.
C'était pas Terrery, Chris Terrery.
Non, ça, il était plus là, Chris. C'était après.
Non, je m'en souviens. Mais la game a fini 2-1, man, pour l'autre équipe. C'était le Wild. C'était plate en Christy comme match.
J'ai une anecdote semblable à ça. Ma mère a travaillé pour les Caisses des Jardins, puis il y avait eu des billets pour aller au Forum, dans les derniers matchs au Forum. Puis mon idole, moi, c'était Patrick Roy. Moi, je trippais ses goalers. Puis j'étais arrivé là, puis c'était pas Patrick Roy qui goalait, c'était Pat Jablonski. C'était Pat Jablonski, je pense. Déception totale. Étienne, tu restes avec nous autres ou faut que tu t'en ailles? Là? Tu m'avais dit que tu n'avais pas grand temps.
Bon, je vais rester encore un petit peu, mais tout ça pour dire que oui, j'ai déjà vu jouer Louis à Albany, puis depuis qu'il est dans le junior majeur, je suis allé voir au moins 4-5 matchs par année de chacune des équipes. D'ailleurs, mes chums qui sont fans de certaines équipes, comme j'ai des chums qui sont fans des Voltigeurs, j'ai des chums qui sont fans de l'Armada, puis à chaque fois que je change de chandail, ils font « Voyons, Chris, t'es pas capable de te brancher. »
Ouais. D'ailleurs, sur le podcast, quand t'es venu il y a 3 semaines, je t'ai dit que moi, j'aimais bien Xavier Simoneau parce qu'il vient de mon coin. Puis tu m'as pas trouvé le fun vu que je viens de l'Outaouais. Puis je tirais pas pour les Olympiques, mais oui, j'adore les Olympiques aussi. D'ailleurs, j'ai comme pas le choix parce que Louis, tu connais mon frère aussi un petit peu, je pense. Mon frère coach le Junior 3 à Gatineau. Donc, les couleurs des Olympiques, la flamme, tout est là. Fait que j'ai comme pas le choix un petit peu par la bande de prendre les Olympiques. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres de ce temps-là? Louis, comme là, je sais que vous êtes arrêté pour la période des fêtes. Avez-vous des indications pour l'après, tu sais, le retour après les fêtes? Ou?
Ben, on a une idée là, que ça a l'air de quand ça va recommencer, mais en même temps, il y a 2 semaines, on s'est fait dire qu'on peut avoir des parties de Noël. Aujourd'hui, on se fait dire que tout va fermer. Ouais. Tu sais, de penser trop loin, je pense qu'il y a beaucoup trop de bonheur. Il faut vraiment y aller une journée à la fois. On va demander, nos joueurs présentement sont demandés d'être de retour ici le 3 janvier. Okay. Est-ce qu'il attend un retour, une date officielle? Je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Je pense que c'est réaliste de penser qu'on va jouer dans les alentours du 20. Ceci dit, est-ce que ça va être dans un match local? Est-ce que ça va être dans une micro-bulle, un concept de bulle comme on a fait à Québec? Il y a tellement de scénarios présentement sur la table qu'il va falloir attendre et voir, mais tu sais, avec l'arrivée du vaccin, on pensait que ce serait positif puis qu'il y aurait peut-être des déconfinements, mais au contraire, on semble régresser de ce côté-là. Donc, tu sais, on va attendre avant de paniquer. Tu sais, on va vraiment y aller puis suivre l'évolution là, au jour le jour. Mais je suis vraiment confiant là, qu'en début 2021, on va avoir la chance de jouer là, puis de, tu sais, puis en espérant finir la saison devant nos partisans également.
Oui, c'est ça. Parce
que l'affaire qui est sûre, Simon, c'est que mec, tout revienne à la normale. Ça va être des gros matchs puis un méchant gros show à Gatineau parce que nouveau coach, nouveau DG, mais surtout, en plus, nouvel amphithéâtre.
Mm-hmm. Le centre slush,
ça va être le party à Gatineau. Il va falloir que ça gagne.
Ben écoute, honnêtement, j'ai bien hâte là, que les gens de l'Outaouais viennent de le voir, le sens là, je sais pas. Puis, le monde semble trouver ça drôle, le nom, à cause que c'est peut-être pas une connotation qu'on est habitué d'entendre, mais c'est pour moi, c'est pas différent que le Colisée des Jardins ou le Colisée Sun Life à Rimouski. Mais ça, c'est dit, les partisans de l'Outaouais, puis on est chanceux parce que Slush Poppy, c'est un organisme d'ici, là, c'est une compagnie de l'Outaouais qui investit avec nous, mais ça va être écœurant. Là, pour vrai, quand je vous parle d'amphithéâtre, je suis encore là tantôt, on est en train de fignoler là, les derniers détails pour le vestiaire. On est chanceux. Là. On est vraiment, vraiment chanceux. Ça va être le plus beau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un investissement de 100 millions. Il y a 3 glaces communautaires également. C'est que je pense que l'attrait va être là. Puis, comme tu dis, sans dire qu'on va avoir de la pression, je pense que le virage là, que les Olympiques ont effectué l'an passé, mais les 3 dernières années, il faut donner crédit, sans dire donner le crédit, mais ça n'a pas été facile ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une vente de feu. Il y a eu des années difficiles, mais là, les plus belles s'en viennent. On a des jeunes joueurs de talent, des jeunes joueurs de qualité. Puis, on est bien excités, puis on a surtout hâte là, que, tu sais, Gatineau, là, moi, je me rappelle dans mon temps, il y avait 4000 personnes à Gatineau, puis ça criait, puis c'était intimidant, puis c'est vraiment ce qu'on veut recréer là, ici, là, au sens Slush Poppy.
T'as-tu déjà vu une game, Étienne, à Gatineau?
Ouais, je suis allé voir les Tigres.
Ouais.
Les Tigres en playoff.
À Gatineau,
Oh, il y avait, mais dans ce temps-là, il n'y avait peut-être pas. Cette année-là, on les avait gagnés en première ronde. Non, il y avait peut-être 400.
Ouais. Mais c'est cool parce que là, tu vas vivre le nouvel amphithéâtre sans avoir dû te taper toutes les négociations au conseil municipal de Gatineau. Ça a été long avant qu'ils méritent leur amphithéâtre Gatineau. Là. Tu sais, ça a été compliqué, puis trouver un site, puis de revenir à Gatineau. Puis là, c'était tirer la couverte vers Hull. Tu sais, il y a encore cet esprit-là à Gatineau Hull, que Hull puis Gatineau, oui, c'est tout Gatineau, mais c'était encore vu comme deux municipalités différentes. Là. Fait que t'es chanceux, tu vas vivre le nouvel amphithéâtre sans avoir dû te taper tous ces commentaires-là du conseil municipal. Fait que c'est un super. Mais c'est là, je popie de toute façon. Là, le nom d'amphithéâtre, là, je veux dire, à Ottawa, il a changé assez souvent. Mettons qu'on ne s'attache pas nécessairement au nom.
Moi, je pense que c'est vendeur de ce côté-là, Simon Vendeur. Parce que, tu sais, on veut amener un spectacle qui est familial. On veut. Ah, ouais. On a besoin des jeunes. T'sais, les billets sont un petit peu plus chers que dans le temps. On parle, tu sais, on a des glaces communautaires, ça va falloir attirer les jeunes qui sont à tombe. Puis oui, tu sais, c'est le hockey junior, là, tu sais, c'est vraiment une vitrine pour nos jeunes citoyens d'avoir des jeunes joueurs à l'œuvre qui vont évoluer dans la Ligue nationale, tu sais, dans un avenir rapproché. Donc, tu sais, on veut aller chercher cette clientèle-là. Puis moi, je trouve ça écœurant, tu sais, je trouve ça le fun parce que, tu sais, qui a pas bu une slush poppy? Puis de les voir, ils ont pas besoin d'avoir un centre à leur nom pour dire qu'on boit une slush poppy l'été. C'est que, tu sais, qu'eux autres, ils se manifestent puis qu'ils s'impliquent dans une équipe locale. Wow, tu sais, félicitations à eux. Puis j'ai pas eu la chance de les rencontrer. Puis, mais c'est sûr que ça va être un partenariat le fun. Puis en même temps, c'est sûr que je vais mettre une slush bleue dans le bureau du coach adverse. Comme ça, quand il va crier après l'arbitre, on va voir la langue bleue. Ça qu'on pourra rire un peu.
Ah, mais c'est pas un bon plan. Simon, si tu trouves ça trop enfant, une slush, là, tu peux t'amener un petit flacon de rhum brun.
Ouais.
Ça, une slush rouge, là, ça te fait un bon petit drink.
Oui, non, je suis d'accord à 200% avec ça, avec ce plan de match-là. On ira d'ailleurs ensemble, Étienne, on ira voir une game.
Avec pis, plaisir.
Fait que tu fournis la slush, puis je fournis le rhum. Tu vois, je suis pas cheap.
Ah, c'est génial, ça.
On va fouiller à l'entrée, les gars. On va fouiller à l'entrée, on va pouvoir vous acheter vos petits flacons à l'intérieur, tu sais, la vente d'alcool, c'est important.
On va les laisser en punition dans le bureau du coach, moi, je pense. Mais tu as parlé de Victo. Bon, t'étais avec les Tigres avant d'accepter le poste de DG puis d'entraîneur-chef à Gatineau. Commencer de décider de bouger ta famille, tu sais, je sais que vous êtes des coachs dans l'âme. J'ai un frère qui fait ça, donc je comprends très bien, mais l'étape de dire, OK, bon, on déménage toute la famille à Gatineau, est-ce que ça a été une décision difficile pour toi ou c'était ça allait dans ce sens-là, puis ta blonde, elle comprend qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ben, tu sais, Amélie, elle a toujours embarqué dans mes rêves les plus fous. Tu sais, veux pas, quand j'ai commencé à sortir avec elle, elle connaissait ma réalité, là, jouant encore, comme Étienne l'a dit tantôt, à Albany. Mm-hmm. Mais tu sais, on a eu la chance d'être à Drummondville pendant 4 ans et demi de temps, puis tu sais, je me suis fait congédier un samedi soir à 1h du matin avant la Chicoutimi. Puis ça a été vraiment le premier. Moi, je me suis jamais fait échanger dans ma vie comme joueur. Puis ça a été vraiment le premier rejet que j'ai eu comme dans le monde du hockey. Puis ça a vraiment été difficile parce qu'on était bien établi à Drummond. Puis tu sais, Étienne, il peut en témoigner. Il était souvent là. Puis on était ancré dans la communauté. Amélie travaillait. Tu sais, on habitait sur la rue Cormier. Elle travaillait à 400 pieds de la maison. Tu sais, on était bien. Puis du jour au lendemain, tu sais, quand on se fait congédier le lundi, j'ai reçu un appel des Foreurs de Val-d'Or, puis j'ai dit à Amélie, on déménage à Val-d'Or. Elle dit quoi? On s'en va à Val-d'Or, mon amour, on s'en va en Abitibi de Témiscamingue. Je pense pas qu'elle avait jamais été là.
Tu vas acheter des bottes et un manteau, ça presse.
Ça a été le 11 novembre, j'étais avec mon fils Kaden, parce que Kaden était en visite chez nous, puis on est parti. Le premier match, c'était contre les Vultures, on les a battus 9-2. Fait que, tu sais, ça, c'était comme ma manière de dire merci et bonne chance. Je suis parti avec mon camion le lundi avec Kaden, puis on est arrivé à Val-d'Or, au Confortin à Val-d'Or, puis il y avait 10 pieds de neige. Oh, boy, the boy. J'ai dit, là, on s'embarque dans quelque chose. Puis là, j'ai dit à Amélie, j'ai dit, t'es mieux d'être prête. Ça sera pas un hiver facile, mais en même temps, moi, j'avais oublié qu'on avait une petite à la maison qui s'appelait Rachel, qui venait juste de naître. Puis Amélie était toute seule à élever cet enfant-là, puis il fallait qu'elle déménage. est arrivée chez nous, en Abitibi, au mois de décembre, à la fin décembre. Il a fallu qu'elle dise au revoir à ses collègues. Puis ça a vraiment été difficile. Et puis, tu sais, ce que le monde ne savait pas, c'est que l'été, après la saison avec les Foreurs, j'ai eu la chance d'être interviewé à plusieurs reprises par la Ligue nationale, par des clubs, même de la OHL. J'avais passé trois entrevues avec Saginaw dans la OHL. Puis on pensait qu'on s'en allait de ce côté-là, puis c'est une équipe américaine dans la OHL. Finalement, ça n'a pas marché. C'est qu'on a déménagé à Val-d'Or de maison parce qu'on trouvait que la date qu'on était, c'était peut-être pas assez grand. C'est qu'Amélie, elle a déménagé toute seule une deuxième fois à l'intérieur de 5 mois. Puis 3 semaines plus tard, j'ai dit, mon amour, il faut déménager parce que je viens d'accepter une job à Victo. C'est que, tu sais, les sacrifices que eux font, c'est pas moi. Moi, je vis ma passion. Moi, c'est facile. Mais c'est vraiment ce qu'eux font comme sacrifice de perdre des amis. Tu sais, à Val-d'Or, on commençait à avoir des amis. On commençait à bien se sentir. Uh-huh. Beau, on retourne à la maison. Le côté le fun de Victo, c'est que c'était au centre du Québec encore, puis Amélie, elle a pu retourner à son ancien travail. Uh-huh. Mais là, ça faisait quatre ans qu'on était à Victo. On était bien établis. On avait une belle maison. Puis là, en plein COVID, je dis, ben non, mon amour, pendant qu'on commence à être bien, puis on est à notre aise, on déménage en Outaouais. C'est que d'avoir quelqu'un qui est prêt à vivre ça puis à me comprendre. Puis, tu sais, je vous mentirais pas que je suis un gars facile à vivre. Tu sais, je suis un gars émotif. Je suis un gars que quand j'embarque dans quelque chose, je suis à 100%. Puis souvent, quand t'es embarqué à 100% dans ta passion, ce que tu délaisses, c'est le monde que t'aimes le plus parce que t'es prêt pour acquis par moment. Puis, c'est souvent mes enfants puis ma femme qui en souffrent. Puis, c'est pas facile, puis je vous dirais que cette année, avec le COVID, un nouveau rôle, un nouveau building, on a déménagé en plus à Gatineau. Tu sais, ça prend un toll là-dessus, c'est que ça prend quelqu'un de fort pour t'accompagner, ça prend des parents, mes parents qui sont là justement pour nous aider avec les enfants. C'est que, tu sais, c'est un tout. Être coach de hockey, moi, je vis ma passion, mais c'est vraiment l'entourage que tu as, ça prend un entourage qui est solide pour te permettre de pouvoir continuer là-dedans.
Surtout que tu n'as pas été... Ben, à moins que je me trompe, t'as pas été congédié par les Tigres non plus. T'as accepté le poste avec les Olympiques parce que, bon, c'était un poste qui te tentait. Là, je pense que c'était une aventure que t'avais le goût de vivre. Puis tu me corriges si je me trompe, là, mais...
Ben, je m'attendais pas à ça partout. Tu sais, honnêtement, tu sais, moi, là, tout le monde connaît mes liens avec Kevin Cloutier, là, puis l'organisation des Tigres. Tu sais, j'avais un poste qui était, tu sais, j'étais confortable dans mon poste, j'avais une relation incroyable avec mon boss, puis dans le monde du hockey, c'est quelque chose que ça vaut extrêmement cher. Puis à travers ça, ce que le monde ne savent pas, c'est que j'avais été nommé, voilà, ben 3 semaines avant l'annonce avec les Olympiques, j'avais été nommé coach d'équipe Canada pour les Ivan Ninka des moins de 18 ans. C'est que j'avais déjà ça qui était déjà mis en branle. Puis là, moi, Nono, m'en va me racheter un autre défi. Mais quand j'ai parlé avec les dirigeants des Olympiques, je pouvais pas dire non. La concession des Olympiques, c'est le Canadien de Montréal, la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. On avait 4 choix de première ronde. Mm-hmm. Le nouveau building, c'était tellement un défi qui était intéressant, puis je pouvais mettre mon empreinte sur cette organisation-là, puis amener ma gang. T'sais, j'ai amené Martin Raymond. Je pouvais vraiment mettre ma saveur à travers une organisation aussi riche en histoire. C'est que, c'est un défi côté hockey qui était plus qu'intéressant. Mais ça a été vraiment, ça m'a déchiré le cœur de quitter Victo parce que l'éthique, c'est tout pour moi parce que Kevin m'a donné ma première chance. T'sais, autant j'avais eu des entrevues qui avaient été peut-être du côté négatif avant, là, avec plusieurs équipes, même côté professionnel, il m'avait donné ma première chance. Puis moi, quand je vous ai dit tantôt, j'ai jamais été congédié. Ben, pour moi, d'être échangé ou ben de changer d'organisation, le logo des Tigres, je l'avais tatoué sur le cœur. Ça n'a pas été facile, puis ça a pris un certain temps. Puis, je dirais que jusqu'à notre dernier match dans la bulle, là, je ne l'ai plus. Là, je suis vraiment un Olympique, mais ça a été, c'est mes amis de l'autre côté. C'est plus de ce côté-là, c'était tough. T'sais, quand tu ne te fais pas congédier, c'est facile avec l'autre équipe. Ouais. quand tu quittes de ton plein gré, c'est t'as tout le temps, t'es comme t'es mi figue, mi raisin, t'as tout le temps un petit peu un sentiment d'appartenance envers là. C'est des jeunes que t'as coachés, que t'as développés. Je regarde les jeunes que j'ai passé à travers des moments importants dans leur jeunesse. T'sais, je pense à Félix Paré qui a 20 ans, j'ai vu grandir à travers son adolescence. Puis là, de le voir aujourd'hui, 20 ans maturé, puis brasser nos jeunes, j'étais comme un peu insulté, mais c'était le fun à voir. C'était une chose intéressante.
Il regarde lui aussi les vidéos sur YouTube de Coach Louis. Là.
Ouais, ben, faut juste pas que les bons. Il n'y en a pas trop de bons. Les autres, c'est moi qui serais monté à terre plus souvent que
ça. J'aime ça. Mais... J'ai une question aussi. Ouais, vas-y, vas-y, Dano.
Y a-tu une fierté de voir des gars progresser, Louis, que tu as coaché, je pense, à, entre autres, à Maxime, contre toi, que t'es voué monter, t'es voué aller dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale. Y a-tu une fierté puis tu gardes du contact avec des gars?
Oui, ben c'est que c'est une grande fierté. Puis, tu sais, là-dedans, il y a deux, il y a deux côtés. Il y a le côté, le joueur de hockey comme Maxime Comtois, que ça n'a pas été une situation facile. Il est arrivé à 16 ans, il avait eu 60 quelques points. L'année d'après, j'essaie de changer un petit peu son identité, son style. Sans dire, tu sors dans l'engrenage. Ça a été une adaptation pour lui, une adaptation pour moi. Puis de le voir réussir, puis d'être capitaine de l'équipe Canada à 19 ans, puis de jouer dans la Ligue nationale à 19 ans, tu sais, c'était comme « wow ». Puis Max, tout le monde connaît mon lien de ma proximité que j'ai avec lui. Puis tu sais, ta soeur il coupait les cheveux, puis il coupe encore les cheveux. Puis tu sais, c'est un gars qu'on a vraiment, j'ai pris sous mon aile, puis on avait un lien de confiance. Puis ça n'a pas tout le temps été facile, mais il savait que j'étais là pour lui, puis pour l'aider à travers ça, puis de le voir avoir du succès comme ça au sein de la Ligue nationale, puis c'est quelque chose de très gratifiant, puis je suis tellement heureux pour lui. Puis de l'autre côté, je vais te dire, il y a des gars qui ont un gars comme Simon Lafrance, qui a été échangé des Foreurs de Val-d'Or chez nous, Étienne, à Victo. Puis Simon, le monde doutait des fois peut-être de son caractère, de son intensité. Puis l'année d'après, je le nomme capitaine. Puis aujourd'hui, il joue à l'Université de l'UQTR, puis on est en constante communication, puis il y a un podcast un peu comme toi, Simon. C'était important pour moi de voir cette réussite-là, tant académique, dans la vie courante, puis du hockey professionnel, parce que veux pas, le hockey junior, c'est un reflet de la société. Ce ne sera pas tous des joueurs de hockey. Il va y avoir des comptables, il va y avoir des gars qui vont jouer en Europe, des gars qui vont jouer national, des gars qui vont être avocats. Il y en a d'autres qui vont peut-être être éboueurs, qui sait. Mais tu sais, moi, c'est de vraiment avoir une réussite puis de voir ces jeunes-là heureux par la suite. Puis je ne le réalisais pas jeune dans ma carrière de coach. Puis là, on dirait que je commence à voir des gars à 25, 26 ans. Tu sais, il y en a qui commencent à avoir des enfants, qui vont se marier. Ouais. D'avoir un impact sur Guy Boykov qui a se marié avec une fille de Drummondville. Puis quand je l'ai rencontré pour la première fois, Étienne, il disait « Hi, my name is Sergey. » Hey, Sergey, how are you, buddy? You had a good day? Hi, Sergey. Il était arrivé avec un backpack de Moscou, puis il n'y avait même pas de patin. Puis là, aujourd'hui, il parle français, anglais, russe. Il est marié avec une, va se marier avec une fille de Drummondville, puis on est encore en contact pendant qu'il joue dans la KHL. C'est wow, c'est tellement quelque chose de cool à voir. Puis je commence à le réaliser vraiment.
C'est vraiment cool. Tu as parlé des Olympiques, comment c'était l'organisation qui était un peu qui se rapprochait le plus du Canadien de Montréal, mettons, dans NHL. Est-ce que tu disais, il y avait déjà des mouvements qui avaient été faits avant, justement, parce que c'est rare que c'est arrivé dans l'histoire des Olympiques où ils ont fait une vente de feu, parce que il y a toujours les attentes à Gatineau, comme le Canadien de Montréal, genre tu rebâtis pas, puis tu faut que tu sois compétitif à chaque année, tout ça. Avec ça vient les attentes. Je sais que tu es un gars de défi, mais est-ce que les attentes qu'il y a envers les Olympiques, surtout avec les choix de repêchage et tout, est-ce que ça te fait peur ou ça te motive? Je connais déjà la réponse.
Honnêtement, je ne m'attends pas à ça. Ouais. Je vois plus le défi comme quelque chose de motivant, de dire wow, j'ai la chance d'avoir des jeunes de qualité, puis dans le hockey junior, tu sais, ça te prend des gars de talent, mais il faut également les sélectionner. Puis, tu sais, le hockey junior, il y a tellement d'impondérables. Un jeune de 16 ans qui arrive il a peut-être une première blonde à l'âge de 18 ans. Il sort peu avec, il y a des échecs à l'école. T'sais, il y a tellement d'impondérables au hockey junior qu'on va commencer à contrôler ce qu'on a à contrôler. Ça vient avec la pression, oui, puis, tu sais, ça me fait pas peur. Mais en même temps, je veux pas trop m'attarder à ça. Je vais faire ce que je vais faire. Je vais faire du mieux de mes capacités. Je vais m'entourer avec du monde de qualité. Puis je sais que ça va bien aller. Il y a une chose dans le hockey qu'on contrôle pas, c'est le résultat final. Pour le reste, on va essayer de faire les choses de la bonne façon comme on le fait présentement. Mais honnêtement, à un moment donné, là, si tu amènes les bonnes personnes, tu amènes des bons jeunes, tu crois en ce que tu fais, tout le monde embarque là-dedans. Écoute, tu te donnes une chance d'avoir du succès collectivement. Puis, on parle de gagner. Le Canadien de Montréal, dans les années 70, dans les années 80, c'était peut-être plus facile de gagner parce que tu avais plus de joueurs qui étaient cachés. T'avais peut-être plus de, d'accès à tout le côté francophone. Même nous autres, là, on a eu du succès comme organisation, c'est Gatineau, des Paul Byron, des Claude Giroux. C'est pas, je pense pas que les Foreurs de Val-d'Or, sans rien enlever à personne, mais c'est peut-être pas des gars, c'est peut-être des gars qui étaient un petit peu méconnus de, du trois quarts de la ligue. Tandis qu'aujourd'hui, avec les plateformes numériques puis tout ce qu'on a accès, c'est beaucoup plus, plus difficile de cacher ces joueurs-là ou justement là, d'en amener un outsider puis qui a un impact incroyable sur, sur le côté hockey. C'est ce que ça l'amène, ça l'amène de la parité. Ceci dit, la parité, tu as besoin un petit peu de chance, tu as besoin que des playoffs, le bon match-up, de rester en santé. Mais là, présentement, on a la fondation, nous, pour avoir du succès, puis pas juste pendant un an, mais de bâtir quelque chose de le fun. Maintenant, il faut que ça faut tout tombe en place pour la suite des choses. Là. Mais tu sais, j'aime mieux être dans ma position que de, qu'être dans une situation où tu viens, tu fais une vente de feu, puis tu te retrouves avec aucun choix de repêchage.
Ouais, c'est sûr. T'avais quand même un beau repêchage devant toi.
pas mal.
D'ailleurs, gars, ça amène une question. Rock Charrette qui demande, j'ai une question pour lui. Penses-tu être agressif aux échanges de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec ou tu restes plus neutre? Quand même une jeune équipe, mais tu sais, très travaillant avec beaucoup de talent?
Ben, il faut, tu sais, avec la situation qu'on vit présentement dans la pandémie, là, je dirais que ça va être très, très difficile de faire des moves, là, que ce soit d'acheter, de vendre. Tu sais, à un moment donné, le monde ne veut pas acheter des joueurs ou même nous, est-ce que tu sais, même si on croit à notre équipe de faire des moves pour le présent? Tu sais, ça va être d'autres, ça va être plus des à moyen terme, je te dirais, mais tu sais, on va écouter, on va rester à l'affût parce qu'on croit beaucoup à notre groupe. Mais on veut pas brimer non plus le futur qui est prometteur. Mais comme je l'ai dit à mes joueurs, les joueurs nous ont parlé depuis le début de l'année. L'attitude qu'ils ont avec le fait que Gatineau était fermé. Avec la manière qu'on s'est comporté face à des bonnes équipes de hockey, tu sais, l'Armada Blainville-Bourbon, on méritait un meilleur sort, là. La game contre Québec également. C'est que, tu sais, l'équipe me parle, puis les vétérans disent, non, attends pas demain, là. On est là, nous autres, là. C'est que, ça, faut que je les respecte, puis faut que je sois cohérent. Parce que depuis le jour 1, je leur demande un effort, une attitude incroyable, puis je leur ai dit, montrez-moi ce que vous voulez, puis moi, je vais embarquer dans votre bateau. C'est que, tu sais, si le move, on pense que c'est un move qui est intelligent pour le présent, on va le faire. Mais tu sais, je te dirais que si je reste statu quo, je suis également confiant là, par rapport à notre formation pour la suite des choses. Ça va être vraiment intéressant de suivre ça et de voir là, comment ça va se dérouler là, au cours des prochaines semaines.
Votre première défaite dans Bulle, justement, on était ensemble, Étienne était sur le podcast, puis on a regardé le résultat live. Live pendant le podcast, puis il a vu que vous aviez perdu votre première game. Dano, c'est quoi les clous qu'il y a sur ton mur, pour vrai, ça m'énerve?
C'est mon garage.
OK, c'est quoi tu fais? Tu shoots du gun à clous quand t'as rien à faire? Ou?
Non, j'accroche mes casquettes puis mes
Tu vas pas encore nous sortir ta casquette des Astros de Houston, j'espère?
C'est mes casquettes.
Ça, c'est
quand elles sont accrochées ici, c'est toutes les équipes, toutes les casquettes que Louis a coachées.
Ah ouais? OK.
Ouais. Il y a juste les braves que j'ai pas, mais...
Je pense pas qu'il en faisait, Étienne, les braves dans ce temps-là.
Mais, de façon, ouais. Ça me surprend qu'un gars de Bois-là mette une casquette des braves.
Est-ce que... là, je sais que c'est champ gauche comme question, mais Louis, tu viens de où, toi? T'es-tu du même coin qu'Étienne ou pas pantoute?
Ouais, exact. Ouais. Je viens de la région de... Ben, je viens de Mercier, qui est à Saint-Marc de Bois-là. Quand, tu sais... La région de Salaberry, de Valleyfield, puis Châteauguay, tu sais, avant, ça s'appelait Salaberry ou Hockey Mineur. Ouais. Je dirais qu'il y avait vraiment une délimitation, là, à partir de Bois-Noy. Quand tu traversais Bois-Noy, le pont de Meloche, t'étais à l'autre bord. Ouais. C'était vraiment comme une autre région. C'était une autre gang. C'était comme Hull puis Gatineau, tu sais. Aujourd'hui, c'est tout Gatineau, mais tu comprends, c'est que, tu sais, quand tu te rendais à l'autre bord, avant, il n'y avait pas l'autoroute 30. C'est qu'on arrêtait à Patate-Mallette. Puis ça, j'invite les gens à aller voir mon beau-frère Alex. Vraiment la meilleure poutine, puis je peux vous dire, j'ai pas pris des bajoux là parce que je m'entraîne trop fort, parce que la poutine est bonne à Bois-Noy, mais on arrêtait sur le bord de l'eau à Mallette, puis on revenait, tu sais, c'était trop loin sinon, là, traverser Meloche, là, on était en train de perdre.
J'ai une tante qui habite à Maple Grove, là, qui est juste l'autre bord de Bois-Noy, là, mais qui existe probablement plus, ça doit plus s'appeler de même, ça doit être rendu dans Bois-Noy.
Oui, c'est Bois-Noy, ça.
OK.
Mais il y a le petit Kimming qui est à côté encore là. Ça ne promet pas grave, là, mais. Ouais. C'est la place préférée au meilleur ami Amélie, là, à Phil. Là. Puis Maryse, quand ils se rencontrent, ben, ils font venir des gros de là du petit Kimming. Je pense que c'est comme ça s'appelle le chinois. Là.
C'est sur le bas. Ça, c'est ça. C'est quoi la 138 qui passe là? C'est ça?
132.
132, bon, ben, ma tante, elle habite en face de ça, c'est une couche, moi, là.
Ah, OK.
Je sais de quoi vous parlez, je suis même pas dans le champ.
Bon, t'es un tripeux d'humour. L'humoriste Mathieu C. vient de me parler, gros.
Ah oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais, il le renie, il dit pas, hein, il dit jamais.
Ben, c'est pas bien gros, là. Combien qu'il y a de monde, mais pas gros, qui sont quoi, 100?
Je sais pas.
C'est minuscule. Tu passes là juste parce que t'es obligé. Là.
Deux, trois, certain.
C'est quoi, c'est Ville de Léry qui est plus loin, c'est ça?
Ouais, ouais, Krim, t'es bon. Tu connais ta géographie. Ouais.
Châteauguay.
Quand tu drives au Beauchâteau, tu vas te rendre jusqu'au Bellevue, puis t'aurais passé deux villes.
Ouais, exact.
Nice, nice. Écoute, ben merci. Merci, Étienne, Colin. On peut jaser encore. Là. Moi, c'est juste que je ne veux pas prendre tout de votre temps. Là, puis je sais qu'Étienne, tu faisais de quoi aujourd'hui aussi? Là,
ben, en fait, humour, Simon, hein? Je vais être bien franc avec toi. Là, il y a comme une nouvelle mode. Là. Je l'apprends à Louis en même temps. On fait des shows virtuels pour le temps des fêtes.
Ouais.
Des shows pour des compagnies. Je fais plein de corporatifs sur Zoom. J'en ai déjà fait 8 jusqu'à là, puis à partir de demain soir, j'en fais pour les 7 prochains soirs, au moins un par soir. Il y a des soirs, j'en fais 3.
Wow.
Fait, à soir, c'est le seul soir que j'en ai pas, que je vais aller écouter une petite émission avec ma blonde, c'est pour ça.
OK, c'est ça. Non, ben, c'est bon, t'aurais dû me le dire, maudit.
À moi qu'elle écoute ton podcast et qu'elle tripe bien raide.
Ben, peut-être, je pense. De quoi tu pourrais parler qui l'intéresserait?
C'est ma belle-sœur. En tout cas, c'est comme Amélie dans le cas avec les enfants, puis t'écoutes Simon là, avec l'écran.
Ça me fait des followers, moi, je suis bien content.
Non, mais ce qui est le fun, par exemple, ma blonde, elle tripe ses événements sportifs, fait que j'ai jamais eu besoin d'y tirer un bras pour aller venir voir une game des Tigres. On n'est jamais allé voir une game à Val-d'Or, mais on est allé voir souvent contre l'Armada.
Des playoffs, vous étiez là aussi. Vous étiez assis direct en avant de la game en troisième overtime.
Oui, exact.
Mais là, tu vas être pogné avec Étienne, à venir voir un festival d'humour parce que Étienne, il m'a négocié un chalet là, pour venir faire de l'humour en Outaouais. Puis il a négocié des billets pour Louis puis ta blonde, Amélie.
Ouais, c'est vrai.
Si tu m'as négocié ça live sur le podcast.
Simon, il organise un festival d'humour, puis j'ai dit deux conditions. Je veux que tu me trouves un chalet puis des billets pour Louis puis Amélie.
Parfait. Puis moi aussi, je vais prendre un chalet d'abord, Simon, puis je vais revenir une autre fois sur ton podcast, puis j'amènerai un joueur.
Écoute, tu deviens mon co-animateur là, pour te trouver un chalet. Là. On va te faire de quoi avec ça. On a un mangeur de marde qui dit... excuse-moi, Pascal, c'est pas toi que je voulais traiter de mangeur de marde. C'est lui, Jean-François Laverne, qui dit « Google Maps, ça aide pour Maple Grove et les environs. »
OK.
c'est le mangeur de marde, Jean-François Laverne, qui dit ça. D'ailleurs, comment vous connaissez Louis et PG, ça part de où ça? Parce que.
Ben, c'est dans le temps avec Équipe Québec. Je pense que Jean-François, il était un de nos coachs invités là, dans les camps là, l'été puis tout ça. Puis,
il remplissait les gourdes, hein, si c'est ça, c'est ça?
Non, c'était ton frère, t'es chanceux. Je ne sais pas si t'es comme lui, mais c'est vraiment une bonne personne. J'ai appris à te connaître un petit peu ce soir, mais ton frère, c'est vraiment une bonne personne. C'est un gars que j'ai beaucoup de respect, puis qui est travaillant, puis c'est toujours impliqué avec les jeunes. Puis aujourd'hui, de le voir à la tête des Flames de Gatineau, je suis très content pour lui. Puis il m'avait déjà même envoyé son CV dans le temps pour être assistant à coach. Des fois, c'est pas qu'on veut pas aider des gens qu'on respecte. Mais, c'est un milieu qui est tough, mais c'est un gars qui a fait son chemin. Puis moi, j'apprécie beaucoup parler de hockey avec lui.
Cool. Hey, regarde, on a une question. Là. Je ne voulais pas le traiter de manger de marde, mais on peut peut-être finir avec la question de Pascal Jolin qui dit « Salut Louis, comment décrirais-tu le début de la saison de ton équipe jusqu'à maintenant? Puis es-tu satisfait du rendement? »
Merci Pascal. C'est une très bonne question. Je pense que je suis extrêmement satisfait. T'sais, moi, je n'ai parlé tantôt, puis ceux qui connaissent mon historique de coach, puis j'en parlais avec Kevin Poutier justement cet après-midi. Moi, je suis pas un gars qui va juger là, que par rapport aux résultats de notre équipe. On a eu 3 défaites pour terminer la bulle. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la manière qu'on se comporte. Puis, on a vécu beaucoup d'adversité à Gatineau. Quand tu passes du centre Robert-Gartin, puis là, tu as ton camp d'entraînement à Baribault, Puis là, tu t'attends, on a eu la fuite d'ammoniac. On s'attend à retourner à l'aréna Guertin. Puis il faut rester à Baribo toute la saison. On joue 4 games. Il y a une pause d'un mois. Puis on s'en va en bulle. C'est que, tu sais, nos jeunes ont vécu beaucoup, beaucoup d'adversité que des fois, les gens ne comprennent pas. Parce que, tu sais, je vous ai dit, on n'est pas les Wildcats de Moncton avec le centre à venir. Là, tu sais, à Baribo, ça prend vraiment des bonnes personnes, des gars engagés dans la, envers l'équipe là, pour justement le garder le fort, garder le sourire, d'être là au quotidien. Puis, tu sais, nos jeunes méritent ce qui est arrivé depuis le début de l'année. Puis, oui, notre fiche est 6-4. Je pense qu'elle aurait pu être facilement 8-2. C'est que, tu sais, moi, la manière qu'on s'est comporté, la manière qu'on a travaillé, la manière qu'on a grandi comme équipe, je suis extrêmement satisfait, même si c'est au-delà de mes attentes. Tu sais, on est la deuxième équipe la plus jeune de la Ligue, mais de l'avoir, nos jeunes se comporter. Puis, tu sais, même si on a gagné des matchs, puis, tu sais, on a 6 victoires en 10 parties, nos jeunes ont joué un rôle clé. C'est que ça, pour moi, le côté GM est très content là, de ça.
Ben écoute, pour finir, on a mon frère qui dit merci. Ton 100$ est dans mal, Louis. Fait que pour les beaux commentaires. Hey, merci
beaucoup. C'est 200 qu'il m'avait dit.
Ah, c'est 200. Ah, c'est bon. Ben écoute, merci les gars d'avoir pris le temps. Étienne, on t'a gardé tout le long finalement. T'es vraiment cool, mon chum. Je suis vraiment content que t'aies accepté de venir faire ça. Louis, le temps que tu nous accordes, c'est très apprécié. Fait que merci. Bonne saison à Louis. Bonne saison avec les Olympiques. On va te suivre. Puis si je peux, ben, je vais aller prendre une bonne slush au rhum avec vous autres. Au centre slush papy, c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été là, les gars.
Merci, Simon. Continue ton bon travail. Puis, tu sais, j'invite les compagnies à aller encourager Étienne. Tu sais, honnêtement, c'est pas facile pour vous autres, les humoristes. Quand tu as besoin de spectacle, tu as besoin d'auditoire, tu as besoin d'être avec ton monde. Vous êtes du monde, justement, qui de feeling. Puis dans une salle, puis j'ai vu Étienne souvent performer, puis j'ai vu son one-man à Québec, puis son one-man show. Puis, tu sais, vous avez besoin de ça. C'est que, tu sais, c'est quelque chose qui est pas facile. C'est que, tu sais, tout le monde qui écoute, je vous invite à appeler Étienne, à le contacter parce que vous ne le regretterez pas. Puis merci Étienne de ton support inconditionnel. Tu es le parrain de ma fille, mais au-delà de ça, il a raison. Il m'a toujours suivi, il nous a toujours suivi, puis il est tout le temps là pour sa sœur. C'est que merci Étienne puis Simon. Anytime, je suis à être là pour vous autres.
Ouais, merci.
On est deux passionnés excessifs, Louis, c'est pour ça qu'on s'entend bien.
Juste un petit peu, hein? Comme dans ton show.
Écoute, Étienne, je vais t'isoler ça, là, puis ce commentaire-là, puis tu pourras faire la promo de ton show avec ça.
Hey, je l'ai même appelé à 10h vendredi soir parce qu'on avait une idée qui venait juste de me pâter dans la bulle, puis il venait de finir justement un Zoom, puis je dis là, j'ai besoin de ton feeling, puis de ton aide, puis là, ça a fait des petits, puis je te contrerai ça, Étienne, là, on est rendu à l'étape B de ce plan-là.
Oh, OK, parfait.
Quand on parle de passion, ben, peu importe le domaine dans lequel on œuvre, là, c'est important de l'avoir. C'est que les gars, ce que vous faites, vous êtes des passionnés, vous aussi, c'est que bonne continuité.
Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci, Étienne. Ciao, les boys. Salut. Étienne Dano et Louis Robitaille, c'est vraiment cool, ça, pour vrai. Belle discussion. J'espère que vous avez aimé ça. Louis, un gars super passionné, puis un gars super authentique, tu sais. C'était très spontané comme entrevue. Vraiment adoré jaser ce soir. Mes invités de début de show aussi, mes amis humoristes, Alex Bisaillon, Éric Pelado et Pascal Mailloux. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à tout le monde qui ont écouté le podcast. Partagez si vous avez aimé ça, si vous aimez le show puis tout ça. N'hésitez pas à partager sur Facebook, à le partager aussi le clip YouTube. Puis à la semaine prochaine. Je reçois, puis ça va être annoncé dans les prochains jours, je reçois les 4 finalistes du prochain stand-up sur les ondes de nouveau. Donc, je reçois Val Belzile, Coco Béliveau, Chuck, mon ami Chuck Deschamps, Charles Deschamps, et le gagnant, Simon Delisle. Donc, je reçois les 4. On va se faire un panel d'humoristes. On va jaser avec eux autres. On va jaser de leur expérience du show, du prochain stand-up à nouveau. Donc, manquez pas ça. Semaine prochaine, ça va être lundi au lieu de mardi. Donc, ça va être annoncé là, dans les prochains jours. Mais ça va être lundi soir au lieu de mardi pour accommoder les disponibilités de tout le monde. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain, le 21 décembre. Merci d'avoir été là. Ciao tout le monde. Bonne soirée.